Placer mes pieds sur le rocher pour rester. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Un chant de louange.
Alléluia.
Mon cœur était affligé sous les sourcils froncés de Jéhovah. Et bas dans la fosse où mes péchés m'ont entraîné. J'ai crié au Seigneur du profond de la boue. Qui m'a tendrement fait sortir jusqu'au jour de l'or. Il m'a fait sortir de la boue. Il a placé mes pieds sur le roc pour rester. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Un chant de louange.
Alléluia.
Il m'a placé sur le solide rocher à ses côtés. Mes pas ont été établis et je vais rester ici. Pas de risque de tomber tant que je reste ici. Et je tiens ferme par sa grâce jusqu'à ce que la couronne je gagne. Il m'a fait sortir de la boue. Il a placé mes pieds sur le roc pour rester. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui, un chant de louange, alléluia. Il m'a donné ce chant, c'était un nouveau chant de louange. Un jour comme de nuit, je chante ces douze notes. Mon cœur déborde, je suis heureux et libre. Je louerai mon Rédempteur qui m'a sauvé. Il m'a fait sortir de la boue. Il a placé mes pieds sur le roc pour rester. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Un chant de louange, alléluia. Je vais chanter sa merveilleuse miséricorde envers moi. Je le louerai jusqu'à ce que tous les hommes sa bonté verront. Je chanterai le salut au pays et à l'étranger jusqu'à ce que beaucoup entendent la vérité et aient confiance en Dieu. Il m'a fait sortir de la boue. Il a placé mes pieds sur le roc pour rester. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Un chant de louange, alléluia. Tapons-le des mains.
Who's a member of the bride tonight?
Qui est membre de l'épouse ce soir?
I'm in the right place.
Je suis au bon endroit.
Oh, he brought me out of the
Il m'a fait sortir de la boue. Il a placé mes pieds sur le roc pour rester. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Un chant de louange.
Alléluia.
Il m'a placé sur un solide roc à ses côtés. Mes pas ont été établis et je vais rester là. Pas de risque de tomber tant que je reste ici. Mais je tiens ferme par sa grâce jusqu'à la couronne je gagne. Il m'a fait sortir de la boue. Il a placé mes pieds sur le roc pour rester. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Un chant de louange, alléluia. Encore une fois. Il m'a donné un chant, c'est un nouveau chant de louange. De jour comme de nuit, je chante ces douces notes. Mon cœur déborde, je suis heureux et libre. Je louerai mon Rédempteur qui m'a sauvé. Il m'a fait sortir de la boue. Il a placé mes pieds sur le roc pour rester. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Un chant de louange, alléluia. Ne sommes-nous pas heureux pour cela ce soir? Loué soit le Seigneur.
Elle
n'est pas heureuse d'être l'épouse.
No guesswork to it. We're the bride.
Il n'y a pas aucun doute, nous sommes l'épouse. Loué soit le nom du Seigneur.
Well, he brought me out of the miry clay. Well, he set my feet on the rock to stand. He puts a song in my soul today. A song of praise. Second verse.
Il m'a placé sur le solide roc à ses côtés. Mes pas ont été établis et je vais demeurer ici. Pas de risque de tomber tant que je reste ici. Mais je tiens ferme par sa grâce jusqu'à ce que la couronne je gagne. Il m'a fait sortir de la boue. Il a placé mes pieds sur le roc pour rester. Il a mis un chant dans mon âme aujourd'hui. Un chant de louange, alléluia. Tapons l'un des mains encore une fois. Soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur.
That rock is this message.
Ce rocher est ce message. Loué soit le Seigneur. Je suis heureux. Loué soit le nom du Seigneur. Oh, nous sommes heureux. Vous pouvez vous asseoir. Je pensais seulement, oh, ils sont tellement contents d'aller des games de baseball. Nous, ils sont, c'est un home run et nous nous dirigeons vers le ciel. Oh, loué soit le Seigneur. Vous parlez d'un home run. Loué soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir.
Oh,
j'espère que vous êtes dans l'expectative, excité. Vous avez été en prière, que vous êtes venu dans l'expectative de recevoir quelque chose de spécial ce soir. Qui est venu de cette manière ce soir? Loué soit le Seigneur. Vous allez tous recevoir une bénédiction spéciale ce soir. Chaque fois que nous rassemblons ensemble, il y a une bénédiction spéciale parce que nous entendons la voix de Dieu. Nous allons entendre plus à propos de cela ce soir. N'est-ce pas merveilleux? Il n'y a rien de mieux que de prendre de mauvaises bandes. Et à chaque fois, comme je l'ai dit plusieurs fois, nous savons exactement comment ça va être. Ça va être glorieux. Lorsque nous venons à l'Église, je souhaiterais souhaiter la bienvenue à l'Église. car nos yeux ont été ouverts et nous l'avons connu. Et cela nous est révélé que William Marion Branham est la voix du signe. Amen. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. C'est ce qui nous amène, ce qui nous amène ici. C'est parce que nous savons cela. C'est pour cela que nous appuyons sur play. Nous avons appris que cette voix était tellement importante et tellement importante de l'écouter que Dieu lui-même va faire jouer des bandes au-delà du ciel. Amen. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur. Ça, c'est quelque chose qui va brûler les gens, les enflammer de ceux qui n'aiment pas faire jouer les bandes. Dieu lui-même fait jouer des bandes dans le ciel. Ils ont fait cela toutes les années dans le passé, depuis le commencement du temps. Ils font la même chose dans ce temps qu'ils ont fait auparavant. Aussitôt qu'un messager quitte, comme Frère Branham a dit, qu'est-ce qu'ils font? Ils s'organisent. Ce n'était pas ce messager, mais lorsque ce messager était là, mais quand il est parti, ils se sont organisés. Ils ont organisé des groupes d'hommes, c'est ce qu'il a dit qu'ils ont fait. Et ces groupes d'hommes, éventuellement, ils deviennent une dénomination. Il dit qu'ils forment des groupes et ils forment une dénomination. Les Pentecôtistes sont devenus l'Église de Dieu. Et ils sont devenus les assemblées de Dieu. Ils sont devenus les unitaires. Ils se sont séparés dans toutes ces doctrines et toutes ces idées. Mais le prophète de Dieu a dit, cela n'arrivera pas au temps de la fin. Il ne laissera pas ça leur arriver à nouveau. Il les a toutes séparées. Il n'y aura pas d'autres dénominations. Il nous a dit, ils vont être identifiés par leurs propres caractéristiques, cependant. Ce qu'ils ont fait par le passé, ce qu'ils disaient dans le passé, ils vont le dire aujourd'hui, ils vont le faire aujourd'hui, exactement comme ils l'ont fait auparavant, ils vont le faire aujourd'hui. Ils vont le dire comme ils l'ont dit. Écoutez, vous ne pouvez pas seulement écouter cette seule voix. Vous ne pouvez pas. Il y en a d'autres qui sont loin. Il y a d'autres voix qui sont là-bas. Il y en a d'autres qui ont été appelées. Il y en a d'autres qui sont prédestinés à dire quelque chose, à faire quelque chose. Et cela va prendre ces voix. Cela prendrait ces voix de ces ministères pour perfectionner l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Vous devez avoir ces voix. C'est du non-sens. Du non-sens. Loué soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ce message parlé, prononcé par Dieu, confirmé, la colonne de feu, c'est ce qui va perfectionner cette épouse. C'est la seule chose dont nous avons besoin. C'est la seule voix dont nous avons besoin. Ce messager, la voix de ce messager, rien d'autre. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ça, c'est la voix du signe. Cela ne sera pas un groupe. Ce sera un seul homme. Dieu n'a jamais traité avec d'une autre façon qu'avec un seul homme. Maintenant, Élie n'était pas un groupe. Loué soit le Seigneur. Jean le Baptiste n'était pas un groupe. Ils étaient un seul individu. Dieu, Malachi 4, ne dit pas, je vais vous envoyer un groupe. Il se dit, je vais vous envoyer Élie. La parole ne peut pas être altérée. Loué soit le Seigneur. Loué soit le Seigneur.
right there is what we believe.
Juste là, c'est exactement ce que nous croyons. Juste là. Loué soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ça ne dit pas groupe, ça ne dit pas des voix. Ça dit Élie. Malachie 4, un seul homme, un message qui va perfectionner l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Maintenant, Dathan et Corée, ils n'ont pas dit, voilà, il recommence à nouveau. Vous savez quoi? Les dénominations ne sont pas un problème pour nous. Ils ne le sont pas. Ils ne sont pas un problème. Ils ne sont même pas prêts. Ils ne sont pas semblables. Ce n'est pas, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ce n'est rien. La pression qui vient sur les églises, que vous pouvez, que les églises ont été fermées, nous serons partis. Ils ne seront plus là. Nous sommes l'épouse. Ça ne veut rien dire. Trump et ses bombes et les nucléaires. Ah, s'il vous plaît.
We're praying for it.
Nous. Le monde entier a peur de ces choses. Et nous voulons ces choses. Mais ce n'est pas ce que c'est. Le message vient à un point culminant. Peu importe où c'est, voilà où ça vient jusqu'à la fin, ça sera si près. Les deux mains sont tellement proches. Mais voilà à quoi ça revient. Hein? Peu importe qui c'est. Comme j'ai dit l'expression, pardonnez-moi si le chapeau fait. Il y a quelqu'un qui est là. Et, alors, Dathan et Korah, ils n'ont pas dit, n'écoutez pas Moïse. Non. Non, ils n'ont pas dit ça. Ils connaissaient mieux que cela. Ils connaissaient mieux que cela à ce moment-là. Ils connaissent mieux que ça maintenant même. Ils auraient quitté ce ministère s'ils auraient dit cela à Dathan et Corée. Ils voulaient seulement ajouter leur voix à sa voix. Voilà le problème. Leur voix à cette voix. Ils veulent faire du majeur un mineur plutôt que leur message. Leur message, un majeur, est celui du prophète, un mineur. Ce message est le majeur, c'est la seule chose. Loué soit le nom du Seigneur. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ils disent, Moïse est le messager, bien sûr. Ils doivent dire cela. Mais il y a ceux qui sont les seuls. Et vous devez entendre ces hommes aussi. Ils sont des hommes loin de Dieu. Frère Branham a dit qu'ils étaient saints. Ils avaient quelque chose à dire. Mais ils ont failli à reconnaître le message de son homme. Leur travail, c'est de pointer à ce messager. Je crois que cela dit... Un seul homme, pas un groupe, un seul homme, c'est ce qu'il a dit. Fâchez-vous après le messager. Loué soit le nom du Seigneur. Ils sont un autre groupe loin de Dieu. Et c'est la vérité. Vous voyez, les deux mains, c'est la vérité. Il dit que nous sommes ce groupe d'hommes. Vous devez nous entendre également.
Is it being said?
Est-ce que cela est dit? C'est ce que le prophète dit. Dieu n'a jamais traité avec un groupe.
End of story.
C'est la fin de l'histoire. Oui, sois au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Dieu n'a jamais traité avec un groupe. Nulle part dans les Écritures, il traite seulement avec un individu parce que chaque homme est différent de l'autre. Chaque homme, notre pouce est différent, notre nez est différent, nos actions sont différentes. Il choisit un homme s'il peut l'amener être en parfaite harmonie à un point où il peut devenir la parole.
Our prophet was the
Notre
word.
Prophète était la parole.
What did he tell us?
Qu'est-ce qu'il nous a dit?
The word.
Restez avec la parole.
Amen. Praise the name of the Lord.
soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Il y a une seule façon de s'assurer, c'est de demeurer, d'être sûr, certain, c'est de demeurer avec cette voix, car cette voix ne change jamais. Les hommes ont des idées, des pensées, et toutes ces choses, mais ils changent. Ils ne sont pas d'accord les uns avec les autres. Je ne pourrais pas le faire. C'est pourquoi je dois aller là, je dois les faire aider cette personne-là. Écoutez, ces bandes ne changent jamais. Ils disent toujours les mêmes choses. À chaque fois que nous les écoutons, ils ne changent jamais. Dieu avait un seul homme dans son contrôle et c'est devenu la parole pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Ce message est notre ministère quintuple. Il était notre prédicateur. Il était notre enseignant. Il était notre apôtre. Il était notre prophète. Il est notre pasteur. Il est le septième ange. Il est tout. Loué soit le Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur. Loué soit le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Loué soit le Seigneur. N'est-ce pas merveilleux? Et il l'a fait, je ne dis pas cela. Je n'invente pas cela. Il était toutes ces choses, apôtre, pasteur. Et alors il envoie son ange au temps de la fin. Nous sommes au temps de la fin. Alors comment est-ce important pour d'entendre cette voix, la voix du signe? Cette voix est si grande, si importante. Cette voix est tellement importante. C'est la voix à travers toute cette Bible. Cette voix était si importante de ce messager que Dieu, quand il l'a prononcé sur terre, Dieu l'a fait résonner dans les cieux. Loué soit le Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Aimeriez-vous entendre la citation? J'espérais cela. Pourquoi sommes-nous contre les organisations? Remarquez, cet ange, le dernier ange messager avant la venue de Christ, dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, la voix du messager. Quelle voix? La voix de qui? Du messager. Pas une autre voix. C'est une voix. C'est la voix du messager. Maintenant, nous devons établir de qui nous parlons ici. Qui est le seul ange confirmé de Dieu? William Marion Branham. Alors, nous savons de qui nous parlons ici. Nous croyons tous là. OK. Alors, si nous remarquons, lorsqu'il donne sa voix sur terre, il y avait une voix qui a résonné dans le ciel. Le quatrième verset, si vous voulez tout le lire. OK. Le quatrième verset du chapitre 19. Ce messager sur terre, il était si près de Dieu. Oh! À un point, lorsqu'il parlait sur terre, Dieu le faisait résonner la même chose dans le ciel. Loué soit le Seigneur. Loué soit le nom du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Alors la voix de ce messager William Marion Branham était tellement grande que Dieu l'a fait résonner. Lorsqu'il l'a dit sur terre, Dieu l'a fait résonner dans le ciel. Et nous ne devrions pas faire jouer cette voix dans l'église? Loué soit le Seigneur. Nous avons la révélation. Loué soit le nom du Seigneur. Lisons cette première partie à nouveau, parce qu'il y a peut-être quelque chose que nous avons manqué. Remarquez, Cet ange est le dernier messager avant la venue de Christ dans le chapitre 19 de l'Apocalypse, la voix du messager. Alors, la voix du messager, l'Apocalypse, chapitre 19, était le dernier messager, ange messager de Dieu que, dans le chapitre 19. N'est-ce pas exact? C'est ce que Frère Branham a dit. Lisons. Apocalypse. Chapitre 19.
Might answer some questions here.
Cela va probablement répondre à quelques questions ici. Il a dit que ce verset 4, il a dit cet ange, Dieu a fait résonner dans le ciel ce qu'il a dit. À qui écoutons-nous ici?
And the 24 elders and the four beasts fell down and worshiped God that sat on the throne.
Les douze patriarches se sont prosternés, ils ont commencé à adorer Dieu, et une voix est sortie du trône et a dit, loué soit notre Dieu, et vous tous les serviteurs, et vous qui avez craigné petits et grands. Car cette voix d'une grande multitude, c'était une voix de plusieurs des plus grands dieux. Il y avait une voix qui tenait comme le tonnerre, qui disait Alléluia. Soyons heureux et réjouissons-nous, car le mariage de l'agneau est arrivé et l'épouse s'est faite préparer elle-même. Et pour elle, a été accordé qu'elle soit habillée d'un vêtements blancs, car le blanc est la de quel ange parlons-nous ici? Continuons. Et ceux qui sont appelés au mariage de l'agneau. Et il m'a dit, ceux-ci sont les véritables saints de Dieu, et je suis tombé à ses genoux pour l'adorer. Alors, qui était cet ange?
That angel was none other than the
cet ange n'était personne d'autre que le septième ange messager. C'est ce que le prophète de Dieu vient de dire. Vous savez, lorsque j'ai lu cela, lorsque Dieu m'a révélé cela, c'est comme nous disons dans l'école, qui d'autre aurait pu être un ange? Et Frère Branham le dit juste là, la voix, l'ange du dernier messager avant la venue du Seigneur Jésus dans Apocalypse chapitre 19, la voix du messager, c'était ce messager qui parlait à Jean. Il l'a prononcé sur terre et Dieu le faisait résonner dans le ciel. Et ce messager parlait à Jean. Et Jean savait que c'était exactement la même chose. Il a dormi avec, il ressemblait exactement comme lui. Il a dit, c'est lui. Cela doit être lui. Il était exactement pareil. Vous n'allez pas tromper ce messager. Il est tombé sur ses genoux. Il a commencé à l'adorer. Il a dit, ne m'adore pas, je suis ton coéquipier. Dieu. Loué soit le nom du Seigneur. Ce message est rempli de pépites d'or pour l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est tout juste là, ici, pour l'épouse. Il a dit, quel est le verset, la traduction du la voix de Dieu qui parle à ces gens prédestinés qui disent sortez d'elle. Cela ne fait que l'ancrer. C'est quoi? C'est la voix d'Élie qui parle à l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. Je veux faire quelque chose très clair, car il y a des gens sceptiques qui disent, oh, ils mettent trop d'emphase sur un homme et nous ne s'adorons pas cela. Et on va laisser le messager répondre lui-même à cela. Dans le même jour que le Fils de Dieu est révélé dans Apocalypse
1,
Le septième messager de Dieu a ouvert les sceaux. Qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un ange, c'est le Fils de l'homme. Mais le messager révèle le Fils de l'homme. Pouvez-vous les voir séparés là maintenant? C'est ce qui semble être si difficile pour vous. Pas le Fils de l'homme lui-même. Mais le septième ange, le septième messager qui révèle au public le Fils de l'homme, parce que vous ne pouvez pas l'organiser. C'est le grain lui-même, à nouveau. C'est qui vous êtes, le grain. Le grain lui-même qui écoute seulement cette voix. Amen. Vous aimez ce message de tout votre cœur? Êtes-vous heureux pour cette révélation que Dieu vous a accordée? Il n'y a rien d'autre. Tout ce qui a été écrit ici, tout ce qui a été prononcé, c'est pour qu'est-ce qui arrive maintenant même. C'est pour cette épouse. Qui revient au grain que nous sommes. Pas en dire assez pour depuis le commencement des temps. Et au jour où nous vivons maintenant même et dans le temps de Jésus, ils voulaient vivre dans le temps dans lequel nous vivons pour voir la venue. Tout est en train d'être manifesté. Tout est accompli, ces rumeurs de guerre et toutes ces choses. Il n'y a rien qui nuit à la venue du Seigneur. Seulement nous. Alors Dieu, et préparons-nous et inclinons la tête. Nous voulons seulement lui dire comment nous l'aimons et comment nous l'apprécions. Comment nous le remercions pour la révélation de ce message. Qu'est-ce que ce message est pour nous? C'est tout pour nous. Nous avons vu le signe. Nous avons entendu la voix. Et nous le croyons de tout notre cœur.
Merci, Lord.
Merci, Seigneur.
We know that you're here, Lord Jesus,
nous savons que tu es ici, Seigneur Jésus, mais nous voulons tellement te faire sentir bienvenu. Et Seigneur, tu sais de quoi nous avons besoin ce soir. Seigneur, accorde-le-nous. Ouvre nos cœurs comme jamais auparavant. Puisse cette révélation aller plus profonde qu'elle ne l'a jamais été auparavant. Et Seigneur, laisse-nous toucher ton vêtement ce soir. Et Père, laisse cette épouse réaliser qui exactement elle est. Et lorsqu'ils prient, laisse-les, accorde-les de croire qu'ils prient les uns pour les autres. Et entends ces prières. Nous le croyons, Seigneur. C'est ta parole et elle ne peut pas faillir. Il y en a beaucoup qui sont malades et beaucoup de requêtes ici. J'ai une requête spéciale pour une sœur, Michelle Erickson. Elle est très malade dans son corps. Les docteurs l'ont abandonnée. Mais pas Docteur Jésus.
He says to mention that name, New Hope.
Et seulement mentionner un nouvel espoir, juste de mentionner son nom. Je connais une église. Je connais un groupe.
Then there springs up new hope.
Qui a un nouvel espoir.
We are that church.
Nous sommes cette église.
We believe we are that
nous
church.
Croyons
we
que nous sommes cette église. Nous sommes cette épouse.
And whatever
et peu importe quelle est votre requête, peu importe, il est ici. Et il va répondre à ses requêtes. Chacune d'entre elles, croyez-vous cela ce soir, Église? Croyez-vous que vous êtes l'Église? Croyez-vous que peu importe ce que vous demandez, cela sera accordé? Avez-vous la foi? Oh Seigneur, aide notre incrédulité, car véritablement tu es ici, avec nous ce soir. Il est ici.
Hallelujah, He is here. Yeah. Nous sommes tellement un peuple privilégié ici ce soir. Nous te remercions du plus profond de notre cœur. Nous t'aimons, Seigneur, avec tout ce qu'il y a en nous. Oh, comment grand tu es, Seigneur. Juste d'être dans ta présence. Nous ne savons même pas comment dire quoi que ce soit, mais de notre cœur, Seigneur, nous t'aimons, Seigneur, avec tout ce qu'il y a en nous. Seigneur, nous sommes rassemblés ici aujourd'hui autour de du monde entier. Seigneur, tu appelles une épouse à sortir de l'Église. Elle a reconnu ta voix, la voix de Jéhovah. Oh, Seigneur. Elle est rassemblée dans des maisons, elle est rassemblée dans des petites places à travers le monde entier. Elle est rassemblée dans des églises. Ils ont reconnu la colonne de feu qui conduit cette église, qui appelle une épouse, qui la prépare, qui la perfectionne. Il n'y a rien d'autre qui peut apporter cette épouse ensemble. Il n'y a rien d'autre qui peut la perfectionner qu'elle est reconnue. Elle est assise là. Ils sont sur la ligne téléphonique à travers le monde entier. De penser, Seigneur, que tu as un grand plan. C'est ton programme. Ils sont unis sous ce message, le septième ange messager. Ce message qui révèle le Fils de l'homme. Oh Seigneur, ils sont ici pour entendre ta voix. Il n'y a aucun son incertain. Il n'y a rien qui soit incertain. Ce n'est rien d'autre que l'absolu. C'est la ligne de vie, c'est le signe. Nous te remercions pour cela. Seigneur, et je pense seulement à ce que nous avons lu dans Matthieu 25 à propos de ton véritable serveur fidèle qui donna la nourriture au temps convenable. Et nous Seigneur, la nourriture est pleine, Seigneur. Et lorsqu'il a sonné ses trompettes et que tout s'était tu. Et Seigneur, nous écoutons la voix du roi. Et ce message se dirige vers l'épouse, Seigneur, qui la restaure à la foi originelle. Oh Seigneur, nous te remercions tellement, Seigneur, de reconnaître ce que tu fais, Seigneur, cette écriture est accomplie. Merci, Seigneur, pour le privilège de voir ta parole, Seigneur, de la voir manifestée, Seigneur, qu'elle puisse être si réelle pour nous et tellement profonde dans notre cœur, qu'on puisse manifester la véritable parole pure, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ce message seul. Merci, Seigneur, pour ton message. Merci, Seigneur, que nous ayons quelque chose à manger. Nous ne courons pas à gauche et à droite, nous demeurons juste là, nous restons sur cette parole. Nous te remercions pour cela de tout notre cœur. Seigneur, alors que nous préparons à entendre cette parole, anoint-nous à nouveau, Seigneur, de cet esprit qui avait été donné. Nous t'aimons et nous te remercions, Seigneur, et pour ces requêtes, Seigneur. Il n'y a rien trop difficile pour toi. J'ai de penser à cela. Lorsque notre sœur, la première fois, Seigneur, que les docteurs l'ont abandonné, Seigneur, juste de penser qu'une prière de tes gens qui ont été envoyés et les docteurs ne l'ont même pas cousu parce que tu es le même hier aujourd'hui éternellement, et notre foi grandit, Seigneur. Et notre foi est ancrée dans ta parole. Et nous prions pour notre sœur, Seigneur, et nous te remercions pour cela, Seigneur. Nous savons que c'est réel.
Lord, we love you.
Seigneur, nous t'aimons. Béni, sois avec nous maintenant. Et pour le restant du service.
One more thing, Lord.
Encore une fois, Seigneur.
As we come to this table, Lord,
alors que nous venons à cette table, nous souvenir ce que tu as fait pour nous. Seigneur, tu as donné ta vie pour nous. Tu as versé ton sang. Et nous te remercions avec tout ce qu'il y a en nous, que tu aies fait cela pour nous. Merci Seigneur pour le messager prophète. Merci Seigneur pour frère Billy Paul.
Seigneur,
cela vient juste de venir sur mon cœur. Bénis-le et encourage-le, donne-lui la force. Et je pense à sœur Lois. Bénis, sois avec eux, encourage-les Seigneur. Prends-les dans tes bras et mets tes bras autour d'eux et laisse-les savoir que tu les aimes. Et qu'il y a des gens Seigneur qui prient pour eux et que nous les aimons et que nous les apprécions. Et pense à frère Branham, la famille de frère Branham.
Il a dit, s'il y a quelque chose que
nous pouvions faire quelque chose pour mes enfants, merci pour eux et pour leur vie. Et frère Joseph et sœur Valérie, oh, comme nous les aimons. Encourage-les, Seigneur.
Bénis-les,
sois avec eux. Nous te remercions pour leur vie.
Et
ils se représentent tellement pour nous. Ils sont une telle bénédiction. Oh, Seigneur, encourage leur cœur. Bénis, sois avec eux. Bénis, sois avec ton épouse, alors que nous le remettons tous à toi, Seigneur, dans le nom au-dessus de tous les noms, le nom du Seigneur Jésus-Christ.
Amen
et amen.
Alléluia. Il est ici. Amen. Il est ici. Saint, Saint, je bénirai ton nom encore, pour il est ici, et tout attentivement, entend. Il est ici, tu peux toucher, tu ne seras plus jamais le même.
Loué soit le nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir.
Oh,
quel temps! Quel jour que nous pouvons témoigner de nos propres, voir de nos propres yeux la parole qui s'accomplit.
Véritablement,
nous sommes des gens bénis de pouvoir s'assembler encore une fois ensemble. De s'assembler, je ne peux tout simplement pas attendre à écouter ce message. Je ne peux tout simplement pas attendre. Vous savez, alors que nous allons chanter ça, vivant par la foi.
I care not today what the morrow may bring, if shadow or sunshine or rain. The Lord I know ruleth o'er everything, and all of my worry is vain. Oh, I'm living by faith.
Vivant par la foi.
In Jesus above.
En Jésus qui est en haut.
I'm trusting, confide.
Je fais confiance dans son grand amour.
And from all harm safe.
Et de tout danger.
In his sheltering arms.
Dans ses bras protecteurs,
I'm living by faith.
Je vis par la foi.
And I feel no
et je ressens aucun danger.
Though tempest may blow and the
même si les grandes tempêtes peuvent se déferler, de grands nuages s'élever et assombrir le ciel.
Never alarmed at the
je suis jamais alarmé de ce grand ciel ennuagé.
Tendre Père Céleste, nous te remercions pour cette opportunité de pouvoir te redonner en retour. Seigneur, nous te remercions pour tout ce que tu fais pour nous. Et Seigneur, cette opportunité de s'assembler à nouveau en ton nom, Seigneur Père, ouvre nos cœurs pour recevoir tout ce que tu as pour nous cet après-midi. Seigneur, et nous demandons que tu bénisses ces aimes et ces offrandes dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.
Living by faith.
Vivant par la foi.
In Jesus above. I'm trusting, confiding. In
je fais confiance, je remets tout dans ton grand amour.
And from all harm safe.
Et de tout danger.
In a sheltering arm.
Je suis dans tes bras protecteurs.
I'm living by faith.
Je vis par la foi.
And I feel no alarm.
Et je ne ressens aucun danger.
I know that he safely will carry me.
Je sais qu'il va m'apporter passer sécuritairement au travers. Peu importe les malheurs qui arrivent.
Why should I then care though the tempest may blow?
Pourquoi devrais-je ébranler par les tempêtes? Il marche près de moi.
Oh, I'm living by faith.
Je vis par la foi. En Jésus, en haut. Je fais confiance dans son grand amour. Et de tout danger. Dans ses bras protecteurs. Je vis par la foi. Et je ne ressens aucun danger. Notre Seigneur va revenir sur la terre. Nos troubles seront alors tout terminés.
The master so gently will lead us
le maître va gentiment nous conduire au-delà de ce ciel béni. Vivant par la foi
in Jesus above.
En Jésus dans le ciel. Faisant confiance dans son grand amour.
And from all harm safe.
Et de tout danger.
In a sheltering
dans ses bras protecteurs. Je vis par la foi.
And I feel no
et je ne ressens aucun danger.
And if that same
si ce même esprit
qui
a ressuscité Christ de mort demeure en vous. Si le même esprit qui a ressuscité Christ demeure en vous, demeure en vous, il vous redonnera la vie. Si l'esprit demeure en vous, et votre cœur sera ravi. Si l'esprit demeure en vous, si le même esprit qui ressuscite à Christ demeure en vous, demeure en vous. Si le même esprit qui ressuscite à Christ demeure en vous, demeure en vous, il vous redonnera la vie. Si l'esprit demeure en vous, et votre cœur sera ravi. Si l'esprit demeure en vous,
it'll quicken, oh, it'll quicken. Oh, if that spirit dwelling in you can Hosanna, blessed be the rock.
Soit le rock. Béni soit le roc, chez de mon salut. Béni soit le rocher de mon salut.
Hosanna,
Hosanna. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc. Béni soit le rocher de mon salut.
And oh, magnify
the Seigneur,
for He
est digne de
louange. Oh, magnify the Seigneur,
for He est digne de louange.
Hosanna,
Hosanna. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc. Béni soit le rocher de mon salut. Gloire, gloire à son bon nom. Car il y règne éternellement. Oh, gloire, gloire à son nom, car il vit règne éternellement.
Hosanna,
Hosanna, béni soit le roc, béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc. Béni soit le rocher de mon salut.
Hosanna,
béni soit le roc. Béni soit le rocher de mon salut. Hosanna, béni soit le roc. Béni soit le rocher de mon salut.
Vous pouvez vous asseoir à ce moment. Il y a un spécial de frère de la famille James Jones. Il y a-t-il dans le message? Il y a un message en vous avec la voix du temps de la fin. Je sais que vous l'avez entendu également. Nous écoutons le prophète. Nous faisons notre partie. Le message est dans... Est-ce que le message est dans votre pensée ou il est dans votre cœur? Ce message, nous avons besoin plus de ce message de Malachie 4. Maintenant, nous sommes dans les temps de la fin. Et nous pouvons nous tenir et donner. Nous sommes tellement bénis, mais nous échouons. Restons accrochés à ce signe et nous chantons louange à toi. Prenons position aujourd'hui. Tenons-nous. Tenons-nous avec fierté avec ce message, car ce message de ce message de Malachie 4. Seigneur, j'ai besoin de plus de ce message. Oui, nous avons besoin de plus de ce message. Nous avons besoin de plus de toi. Et regarde vers moi. Lorsqu'ils regardent vers moi, je veux les qu'ils voient toi, 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 toi. Alors prenons position aujourd'hui. Disons, prenons position et disons avec fierté. Que de ce message, nous avons besoin de plus du message de Malachie 4. Alors prenons position aujourd'hui. Prenons position et disons avec fierté de ce message, nous avons besoin plus de ce message de Malachie 4. Alors, nous avons pris position, nous sommes reconnaissants d'être identifiés avec le signe et la voix qui suit le signe. Véritablement, seule l'épouse peut véritablement dire que nous nous reposons dans. Il y a un endroit de repos parfait au-delà du rideau du temps. Alors repose-toi, petite épouse, repose-toi. Tout va bien. Tout va bien.
We have heard the message alone.
Nous avons entendu le message. Petite épouse, repose-toi.
Amen.
Tout va bien.
Yes.
Tout va bien. Chantons-le avec tout notre cœur. Va bien.
All is well.
So rest, little bride, rest, for all is well.
Humons-le doucement. Chantons-le doucement. Crois seulement. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Crois. Seigneur, demeurons debout. Quel privilège, gens privilégiés, nous sommes encore une fois ce soir d'entendre le message, la voix du signe. Nous avons reconnu le signe, nous croyons la voix. Gardez seulement en tête que les mots que vous entendez ce soir, Dieu les fait résonner dans le ciel. Merci, Seigneur Jésus, pour la révélation. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ est en train de se préparer ce soir en écoutant ce message. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Voici notre pasteur, le prophète de Dieu, Frère Branham. Que le Seigneur vous bénisse.
Merci. Restons debout un instant alors que nous lisons la parole. Nous abordons tout de suite la parole ce soir pour ne pas prendre trop de temps. Je veux que vous preniez avec moi ce soir le livre de l'Exode et pour commencer le chapitre 4 du livre de l'Exode. Moïse répondit et dit, « Voici, ils ne croiront point et ils n'écouteront point ma voix, mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. » L'Éternel lui dit, « Qu'y a-t-il dans ta main? » Il répondit, « Une verge. » L'Éternel dit, « Jette-la par terre. » Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, « Étends ta main et saisis-le par la queue. » Il étendit la main et le saisit, et le serpent redevint une verge dans sa main. « C'est là, dit l'Éternel, ce que tu feras, afin qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, « Mets ta main dans ton sein. » Il mit sa main dans son sein, puis il la retira, et voici sa main était couverte de lèpre blanche comme de la neige. L'Éternel dit, « Remets ta main dans ton sein. » Il remit sa main dans son sein, puis il la retira de son sein. Et voici, Elle était redevenue comme sa chair. S'ils ne te croient pas, dit l'Éternel, ils n'écouteront pas la voix du premier signe. Ils croiront à la voix du deuxième signe. Inclinons la tête. Pendant que nos têtes sont inclinées, nos cœurs aussi, je me demande s'il y a des gens ici ce soir qui ont des requêtes de prière. Voulez-vous l'indiquer en levant la main? Que Dieu exauce vos requêtes. Notre Père céleste, nous considérons vraiment que c'est un très grand privilège de pouvoir nous approcher de toi par la prière en venant au nom du Seigneur Jésus. Il nous a promis que si nous demandions quoi que ce soit en son nom, cela serait accordé. Tu connais le besoin de chacun de nous. C'est ce que nos mains levées ont voulu signifier. Je te prie, Père, d'exaucer chaque requête ce soir. Reçois-en la gloire. Et maintenant que le grand docteur de la parole, le Saint-Esprit, vienne sur nous ce soir et se révèle à nous et se fasse connaître à nous par la preuve de sa résurrection. Puisse-t-il venir parmi nous ce soir, Seigneur, et visiter nos cœurs, nous parler à travers ces choses qu'il a promises pour aujourd'hui. Que les paroles promises pour cette heure se manifestent devant nous, afin que nous ayons de l'assurance en ce temps très difficile dont tu nous as annoncé qu'il viendrait sur la terre pour éprouver tous les peuples. Et nous en sommes assurés, vraiment arrivés à cette heure-là, Père, et où les hommes sont éprouvés. Il y a tellement de points de vue différents que pratiquement personne ne sait ce qu'il faut faire. Mais je te prie, Seigneur, de nous faire connaître ce soir que tu es ici avec nous, présent pour nous aider. Exauce nos requêtes, car nous le demandons au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'étais un tout petit peu en retard chaque soir. J'ai toujours l'impression qu'il faut utiliser ce microphone ici, alors que c'est celui des magnétophones. Par contre, voici, je pense, celui que je dois écouter ou dans lequel je dois parler. Demain soir, c'est la soirée du banquet, alors ne l'oubliez pas. Je pense que c'est. Je suppose que les gens ont déjà été informés de l'endroit où ils doivent se rendre. Nous apprécions certainement votre collaboration dans ces grandes choses que notre Seigneur a faites. Ce soir, eh bien, voici ce que je pense. C'est qu'à moins de connaître la parole de Dieu, nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Nous ne pouvons pas avoir la foi tant que nous savons pas quelle est la volonté de Dieu. Et alors là, si nous savons que quelque chose est la volonté de Dieu, que la parole de Dieu le dit, alors nous pouvons nous y conformer avec joie. Or, si le Seigneur Jésus, en personne, marchait sur cette terre ce soir, dans une chair humaine, et qu'il disait « Demain, il va pleuvoir toute la journée », alors il serait très facile pour moi de prendre un parapluie pour sortir demain matin, parce qu'il l'a dit. Par contre, s'il ne l'a pas dit, là, je ne sais pas à quoi m'attendre. Donc, c'est comme ça, dans tout ce que nous faisons, nous voulons savoir à quelle heure, dans quel âge nous vivons. Aux nouveaux venus cette semaine, nous avons essayé de montrer que Dieu, dès le commencement, connaissait la fin. C'est ce qui fait qu'il est infini. S'il n'est pas infini, infini, il n'est pas Dieu. Et pour être Dieu, il doit être omnipotent, omniprésent, omniscient et omnipotent. C'est-à-dire qu'il est tout-puissant, qu'il sait toutes choses en tout lieu et qu'il connaît la fin dès le commencement, sinon alors il n'est pas Dieu. Donc en réalité, rien de votre travail, c'est plutôt nous. Mais rien de ce qui est dans la parole de Dieu, elle continue son tic-tac comme une horloge. Et quand c'est l'heure où la chose doit arriver, la parole a signé pour cet âge-là, alors la chose arrive. On pourrait penser que ça va, que ça ne va pas arriver. Parfois, la chose arrive alors qu'on ne reconnaît pas. Jésus a dit une fois, ils ont dit, pourquoi donc tous les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement. Voyez-vous, c'est donc qu'ils le croyaient. Ils croyaient qu'Élie allait venir. Jésus les a regardés, il a dit, Élie est déjà venu et vous ne l'avez pas reconnu. Voyez? Alors, voyez-vous, c'était passé à côté de ces gens-là, les scribes, les ministres, les disciples. C'était Jean-Baptiste et sa venue était en tout point conforme ce que devait être la venue de cet Élie, et pourtant ils ne l'ont pas reconnu. Et maintenant, il nous incombe de reconnaître l'heure où nous vivons et le temps où nous vivons. C'est pourquoi je veux parler ce soir de la voix du signe. Un sujet étrange. Toutefois, Dieu fait des choses étranges. Ses manières de faire sont inhabituelles. C'est ce qu'il fait, qu'il est Dieu. C'est parce qu'il est surnaturel. Tout ce qu'il fait, il le fait, il peut le faire dans le surnaturel parce qu'il est surnaturel. Maintenant, la voix du signe. Et effectivement, c'est le signe à une voix. Le sang à une voix. Le sang a crié de la terre et ainsi le suite. Le sang innocent d'Abel s'est élevé contre Caïn. Et la Bible dit que le sang de Jésus-Christ parle de choses meilleures que ce dont parlait le sang d'Abel. Maintenant, notre cadre ce soir ou notre scène s'ouvre sur l'Exode. Le temps de l'Exode, c'est le temps de l'appel à sortir et l'Exode était proche. Moïse, le serviteur du Seigneur, avait été appelé à exercer une fonction. Et en faisant ce qu'il avait jugé bon de faire, il avait reçu une solide instruction en Égypte, il avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et apparemment, il était en mesure, étant un grand militaire de génie, de délivrer son peuple de cette servitude, puisqu'il était le futur pharaon. Et combien il aurait été facile pour lui de le faire. Mais voyez, dans ce cas, alors, ça aurait été une chose naturelle. Dieu ne se sert pas des choses naturelles. Il se sert des choses surnaturelles pour démontrer ce qu'il est. Donc, après avoir passé 40 ans à recevoir le plus haut et le meilleur niveau d'instruction, il était l'érudit des érudits. Il avait compris, grâce à sa mère, qui était son tuteur, que c'est lui qui allait délivrer le peuple, et il a agi selon saine intelligence des choses. Et il a tué un Égyptien, et alors constaté que ses efforts s'étaient soldés par un échec, et il s'est enfui dans le désert. Et l'instruction que l'Égypte avait mise en lui pendant 40 ans, il a fallu à Dieu un autre 40 ans pour sortir ça de lui. Voyez-vous? Pour qu'il ne se fie pas aux préceptes éthiques qui lui avaient été inculqués, mais qu'il se fie au surnaturel. Et maintenant, le temps était proche, car Dieu avait fait à Abraham, 400 ans auparavant, la promesse que sa postérité séjournerait dans un pays étranger et qu'il en ferait sortir. 40 ans plus tard, il allait les en faire sortir par sa main puissante. Il allait délivrer son peuple par sa main puissante. Et comme le temps approchait où devait s'accomplir la promesse, alors Dieu a fait entrer Moïse en scène. Moïse, après avoir essuyé un échec complet, s'en était allé dans le désert. Maintenant, le type ici, il y a un merveilleux type que nous ne voulons certainement pas manquer de voir. Voyez, en type, Dieu faisait sortir Israël, son peuple, une nation qui sortait d'une nation. Une nation qui sort d'une nation, un très beau type d'aujourd'hui, alors que Dieu appelle son épouse à sortir d'une église. Une épouse chrétienne à sortir d'une église chrétienne. Une église épouse à sortir d'une église, et elle est appelée dans la Bible désignée, j'ai plusieurs notes de références bibliques sur papier ici pour la leçon de ce soir, elle est parfois appelée la choisie, l'élu, ou le reste de la postérité de la femme. Elle a été appelée l'épouse, ce que Dieu, dans sa préséance, a décrété. C'est-à-dire que l'épouse sorte de l'Église. Voyez-vous, l'ensemble, c'est une Église. Mais Dieu retire de cette Église un peuple qui est son épouse. Il a dit qu'il le ferait, il l'a fait, remarquez, ou il le fera. Remarquez, voyons comment il a procédé, de quelle manière il a commencé, il a procédé. C'est ce que nous voulons examiner maintenant au moment où il a fait sortir Israël, comme il a procédé, de quelle manière il s'y est pris. Remarquez quand il est venu le moment où devait s'accomplir la parole promise, Dieu a appelé Moïse par prédestination et il l'a choisi afin qu'il remplisse cette tâche. Voyez, Dieu a toujours exactement la personne qu'il faut au moment voulu. Rien ne fait défaut avec Dieu. Il l'a dit, ça ne peut pas faillir. Si ça faillit, alors Dieu faillit, puisque Dieu est la parole. Remarquez là, la parole devait être manifestée. Et au moment où la parole devait être manifestée relativement à une promesse, alors Dieu envoie toujours un prophète pour manifester cette promesse, parce que c'est à lui que vient la parole du Seigneur. Moïse, qui avait été prédestiné en vue de cela, a été appelé à remplir cette tâche. Personne d'autre ne pouvait la remplir. Quand Dieu a appelé une personne à remplir une certaine tâche, personne ne peut prendre sa place. Personne ne peut prendre votre place. Vous êtes particulier. Combien de fois je me suis dit que ça me sourirait de prendre la place de Roy Roberts, que ça me sourirait de prendre la place de Billy Graham ou de quelqu'un comme ça. Faire comme Billy Graham, aller prêcher à un auditoire, inviter les pêcheurs à s'avancer à l'hôtel, ne plus y penser, rentrer chez moi, ne pas être obligé de rester là et continuer à lutter. Je ne peux pas être Billy Graham. Par contre, Billy Graham non plus, il ne peut pas être moi. Nous sommes tous les deux. Je ne peux pas être Robert. Robert ne peut pas être moi. Chacun de vous avait une place à lui dans l'économie de Dieu. L'un jeûne continuellement et est en communion avec Dieu, tandis que l'autre, lui, il chasse les démons parce que celui-là jeûne. Mais c'est tout le corps de Christ qui travaille conjointement dans l'unité. Quand on voit ces barrières dénominationnelles qui nous divisent, ça me brise le cœur, voyez-vous, parce que c'est ce qui nous sépare. Nous sommes un. Il n'y a personne d'important parmi nous, personne de grand parmi nous. Nous sommes tous pareils. Nous sommes des enfants de Dieu. Un seul est grand parmi nous, c'est Christ. C'est lui que nous devons reconnaître. Et si nous cherchons à recevoir de la gloire les uns des autres, nous ne pouvons pas avoir la foi parce que nous avons la foi les uns dans les autres. C'est en Christ que nous devons avoir la foi. Il est celui parmi nous en qui nous devons avoir foi et aussi avoir foi dans ce qu'il est en train de faire et dans ce qu'il nous a donné. Donc, personne ne pouvait prendre la place de Moïse. Peu importe combien il fuyait et combien il essayait de se défiler, Dieu sait pourtant ce qu'il fait. Il savait exactement ce qu'il devait faire pour façonner Moïse. Il fallait que ces choses-là arrivent. Maintenant, regardez bien. Personne ne pouvait prendre sa place. Maintenant, regardez bien. Dieu lui a donné un signe qui allait confirmer son appel et ses affirmations lorsqu'il descendra en Égypte. Or, Dieu dote toujours ce messager d'un signe et d'une voix qui accompagne ce signe. Et ce signe identifie l'homme si c'est quelque chose qui est écrit dans l'Écriture, comme Jean qui a dit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert ». Ils ont dit « Es-tu le Messie ?» Il a dit « Je ne suis pas le Messie, mais je suis la voix de celui qui crie dans le désert », comme a dit Ésaïe le prophète. Il pouvait s'identifier clairement. Et donc, nous constatons là que Dieu, toujours, ne change jamais sa manière de faire. Il ne peut pas changer. Dieu fait tout exactement de la même manière quand il met en place les éléments de son système. Comme le disait l'autre soir, il a pris une décision. L'homme allait être sauvé par le sang répandu d'un innocent. Nous avons cherché par tous les autres moyens de procurer le salut à l'homme. Nous avons cherché à l'amener quelque part, là où nous avions bâti une ville. C'est ce que Nebuchadnezzar a fait. Ils ont bâti une tour. C'est ce que Nimrod a fait. Ils ont eu la loi. Ils ont eu les temples. Ils ont eu des églises. Ils ont eu des organisations. Ils ont eu des systèmes pédagogiques, des systèmes dénominationnels pour essayer d'amener l'homme à Dieu. Tout ça a complètement échoué. Ça va toujours échouer. Il faut en revenir à ce sang répandu. La manière de Dieu de faire les choses est déclarée dans sa parole. Et cette parole est l'entière révélation de Jésus-Christ. On ne peut rien y ajouter, ni rien en retrancher. Quiconque fera cela, la Bible dit que sa part sera retranchée du livre de vie de l'agneau, s'il y ajoute ou en retranche quoi que ce soit. Prenez-la simplement telle qu'elle est écrite. La Bible n'a besoin de personne pour l'interpréter. Dieu est son propre interprète. Il l'interprète en faisant s'accomplir ce qu'il dit. Avec ça, c'est réglé. Si Dieu l'a dit et qu'il l'a accompli, cela suffit. Elle n'a besoin d'aucune interprète. La Bible dit qu'elle ne peut pas être l'objet d'aucune interprétation particulière. La manière de Dieu de faire les choses, toujours fidèle au signe qu'il a envoyé, il le faisait suivre de sa voix. Et c'est toujours depuis que Dieu envoie un signe sur la terre. Or, Dieu ne fait jamais rien, dit la Bible, sans l'avoir d'abord montré à ses serviteurs, les prophètes. Bon, ça, vous, si ça, c'est faux, alors tout le reste, c'est faux, voyez-vous. Il ne fait jamais rien sans l'avoir montré. En se voyant, ce prophète doit être identifié. C'est-à-dire, ce qu'il prophétise, nous voyons en Nombre 12:6 que ce qu'il dit arrive. Alors croyez-le. Mais si cela n'arrive pas, alors ne le croyez pas. Et pour ça, il faut, peu importe tout ce qu'il dit et combien la chose arrive et tout, si ça ne correspond pas à la parole, alors c'est encore faux. Il faut que ce soit en harmonie avec la parole. Il faut que ça cadre avec la parole comme signe pour l'époque en question, l'époque où ces gens vivent. Or, ceci, Dieu l'avait promis de délivrer son peuple par une main forte. Maintenant, au moment de cette parole, il n'a pas appelé un sacrificateur, il n'a pas appelé un rabbin, il n'a pas appelé un cadre. Il a appelé un berger là-bas, sur la montagne, un fugitif, un prophète né et prédestiné qui ne voulait pas remplir sa tâche. Quand vous entendez des gens dire qu'ils désirent être ceci, cela ou autre chose, être quelque chose, remarquez, Dieu ne les utilise jamais. Dieu a été obligé de poursuivre Moïse pour réussir à l'avoir. Il a été obligé de poursuivre Paul pour réussir à l'avoir. Ce sont des hommes qui ne veulent pas le faire, qui ne veulent pas ces choses. Alors Dieu, il va s'empérer de cet homme-là, de celui qui ne veut pas, afin de montrer ainsi sa gloire. Maintenant, regardez bien, tout signe véritable envoyé par Dieu est suivi d'une voix. Maintenant, si vous remarquez ici, le sujet, c'est le signe et la voix. S'ils ne croient pas à la voix du premier signe, alors ils croiront à la voix du deuxième signe. Donc, le signe a une voix. Et alors, tout signe véritable envoyé par Dieu a une voix. Et cette voix, il faut que qu'elle dit correspond à la parole qui a été attribuée pour ce jour-là, telle qu'elle. Si la voix qui vient, c'est la même voix qu'avant, de la même, ou plutôt si vous voyez un signe et que le signe opéré par cet homme, c'est la même école de pensée qu'avant, alors vous pouvez tout de suite en conclure que ça ne venait pas de Dieu. Si ça continue à identifier la même école de pensée qu'avant, n'en a jamais été ainsi, jamais. Ça ira à l'encontre du programme de Dieu. Il faut que ce soit quelque chose de nouveau. Il faut que ce soit quelque chose que les gens ne comprennent pas. Il faut, sinon ça ne serait pas envoyé. Ça n'a pas besoin d'être envoyé. Si c'est la même vieille école de théologie, il faut que ce soit quelque chose de différent, mais que ce soit quand même identifié dans la parole comme s'appliquant à cette époque-là. Voyez-vous, les certitudes de la parole de Dieu, voilà ce que ça doit être. Aucune erreur possible. Il faut que ce soit la vérité. Il faut que ce soit confirmé par Dieu comme étant la vérité. Et l'homme qui prononce ces choses doit être confirmé par Dieu comme étant un voyant envoyé de Dieu, sinon c'est faux. On ne voit même, on n'aime pas du tout, on n'y croit même pas. Les signes viennent de Dieu. Le signe qui suit, ou la voix qui suit le signe, il faut que ce soit la voix de Dieu qui parle, selon la parole qui s'applique à cet âge-là. Est-ce que vous comprenez? Dieu donne des signes. Pourquoi le fait-il? Il donne toujours des signes. Il leur a dit que c'est dans les signes qu'ils cherchaient à le voir. Dieu donne des signes dans le but d'attirer l'attention de son peuple. Maintenant, examinons ceci à fond. Voyez-vous, les signes sont donnés dans le but d'attirer l'attention des gens. En effet, quand un signe envoyé par Dieu est donné, c'est que Dieu est sur le point de parler. Dieu est sur le point de parler quand le signe est donné. Si ce signe vient du ciel, il vient de Dieu, et Dieu est sur le point de parler. Il cherche à attirer l'attention des gens. Et la parole vient à son prophète. Et le prophète est identifié par le signe qu'il opère. Ensuite, il en vient à la parole, et la parole est manifestée. Alors avec ça, c'est réglé. Ça n'a pas besoin d'interprétation. Dieu en a déjà fait l'interprétation, voyez-vous. C'est tout ce qu'il y a de plus parfait. Maintenant, remarquez, Dieu donne les signes dans le but d'attirer l'attention des gens. Ici, le buisson ardent était le signe qui devait attirer le prophète. Le buisson ardent. Moïse était derrière le désert, il faisait paître ses brebis, lui, un vieux berger de 80 ans, à longue barbe, il marchait le long vieux sentier familier, peut-être par une matinée chaude. Et tout à coup, il y a eu un buisson en feu, et ce buisson ne se consumait pas. Eh bien, ça, c'était tout à fait inhabituel. Or, Moïse, qui était un savant, effectivement, puisqu'il avait été instruit dans toute la sagesse des Égyptiens, et ceux-ci étaient de plus grands savants que ceux que nous avons aujourd'hui. Donc, comme il était un savant, on serait attendu ce qu'ils disent. « Bon, je vais aller voir quelle sorte de produit chimique on a vaporisé sur ce feuillage pour que cette arme ne se consume pas, voyez-vous. » S'il avait abordé ça d'un point de vue scientifique, il ne lui aurait jamais parlé. Et c'est pareil aujourd'hui. Alors que nous cherchons à aborder cela d'un point de vue scientifique, par le moyen d'études et de l'instruction, vous passerez à mille lieues de lieu. Abordez cela comme Moïse, qui avait ôté ses souliers, humble, l'humilité. Donc, c'était là le signe qui devait attirer le prophète. Maintenant, ce signe-là, il doit avoir une voix. Et quand cette voix a parlé, si elle n'avait pas été au scripturaire, ça ne voit pas que le prophète l'aurait écouté. Mais regardez combien la voix qui accompagnait le signe était scripturaire. C'était la preuve que c'était Dieu. En effet, il a dit, « J'ai entendu les gémissements de mon peuple, et je me souviens de la promesse que je leur ai faite. » Voyez? Le signe, puis la voix scripturale derrière le signe. Or, ça montre exactement ce que vient d'étayer. Il faut que ce soit un signe qui vient de Dieu, et si c'en est un, il y a une voix scripturale derrière celui-ci, en rapport avec la promesse de cette époque-là. Non pas la même école qu'avant, les rabbins et tout ça, et eux, ils avaient étudié dans ces écoles avec toujours pareil, les sacrificateurs et tout le reste. Mais voici quelque chose de nouveau, et c'est scripturaire, c'est une promesse. Et il y a un signe pour attirer le prophète. Alors il a dit, bon, avant de descendre là-bas, il lui faut quelque chose qu'il identifie comme prophète, voyez-vous, pour que les gens puissent ensuite l'accepter. Il a dit, ils n'admettront pas que le Seigneur m'est apparu. Il a dit, alors je te donnerai deux signes à opérer, et cela attirera l'attention des gens. Et une fois que leur attention aura été attirée, alors dis-leur ces paroles. Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, et je me souviens de ma promesse. Et je t'ai envoyé pour les délivrer. Et je serai avec toi. Avez-vous remarqué son premier signe? Il y a toutes sortes d'imitations de celui-ci. Tout le monde essayait de jeter un serpent. Ça, ce n'est pas la tendance générale chez les gens. Je ne sais pas ce qu'il sera, voyez-vous. Mais quelle sorte de voix avait-il derrière cela? Rien. La voix égyptienne du monde. Pourtant, il pouvait opérer le signe, mais il n'avait pas la voix derrière celui-ci pour l'appuyer. Mais Moïse, lui, il avait l'incédie du Seigneur. C'était là la différence. Finalement, les imitateurs ont continué longtemps comme ça, mais finalement, ça a fait son temps. Savez-vous que la Bible dit que cela se produirait dans les derniers jours, de même que Genèse s'opposera à Moïse? De même, le feront des hommes, ayant une mentalité réprouvée en ce qui concerne la vérité. Qui est la vérité? Jésus-Christ est la vérité, voyez? Ayant une mentalité réprouvée en ce qui concerne la vérité. Maintenant, Jéhovah va parler par sa parole promise. Il faut donc qu'il prépare ce prophète avant de l'envoyer. En effet, c'est toujours dans sa ligne de pensée, c'est sa façon de faire chaque fois d'envoyer son prophète avec la parole. Il confirme ce prophète. Et là encore, c'est un signe promis. Le prophète lui-même est un signe. La Bible dit, quand vous voyez s'écouler des laps de temps et qu'ensuite vous voyez venir, considérez l'histoire de la Bible, étudiez-la. Chaque fois qu'on voyait s'écouler un laps de temps assez long, mais juste au moment où on voyait apparaître un prophète, là, c'est un signe de jugement. Dieu était sur le point de juger le monde, quand on voyait arriver un prophète. J'ai déjà apporté une prédication là-dessus, les frères qui enregistrent, vous en souviendrez, un signe véritable qu'on néglige, ils le négligent toujours, ils ont toujours négligé, mais c'était un signe de jugement imminent. Or, sa parole s'accomplit par sa voix. Ce qu'il promet, alors sa parole, il l'accomplit par la voix. La venue d'un prophète est un signe avertisseur d'un jugement imminent. Cela a toujours été, je vais vous en citer un exemple. Regardez Noé qui a fait son apparition dans les jours du monde antédiluvien. Un prophète qui prophétisait. Qu'est-ce qu'il y a eu? Le jugement s'est abattu aussitôt après. Moïse est arrivé en Égypte. Un prophète confirmé, accompagné des signes d'un prophète. Qu'est-il arrivé? Le jugement s'est abattu de l'Égypte tout de suite après. Élie est entré en scène, le prophète. Il a prophétisé à Akab et à cette nation-là. Qu'est-il arrivé? Le jugement s'est abattu sur elle et tout de suite après, c'est vrai. Jean-Baptiste est venu, il était un signe. Il était un prophète, il était un signe prophète venu sur la terre. Les gens savaient que quand il viendrait, le Messie parlerait après lui. Forcément, parce qu'il fallait atteindre les élus. Le but de ceci, c'est d'atteindre les élus, ceux qui sortent, comme du temps de Noé, comme du temps d'Élie, les 7000 ou les 700 ou quel que soit le nombre de ceux qui n'avaient pas fléchi le genou, de les appeler à sortir. Jean a appelé les élus à sortir. Il a remis ceux-ci entre les mains de Christ. Quand il est venu, il lui a remis son église en disant, « Il faut que je diminue et que lui croisse, parce qu'il a dit, « Je ne suis pas pour lui qu'une voix qui crie dans le désert, « Préparez le chemin du Seigneur. » Et Jésus est venu de la même manière. C'est ce qui prépare les élus à entendre la voix de Dieu. Voilà, c'est ça le signe prophétique. Oh, si vous suivez ces messages, préparez-les, préparez les élus. Pas les autres, eux ne l'entendront jamais. Ce sont les élus qui sont appelés. Vers qui cet ange qui a opéré ce signe à Sodome est-il venu? Vers Abraham et son groupe. Tenez-vous éloignés de Sodome, elle va être brûlée. Vous voyez, Jésus a promis que ça ne sera pas duré de nouveau, vous savez, cette Sodome-ci. Maintenant, remarquez, qu'est-ce que cela a pour effet? De préparer les élus à recevoir l'abri prévu par Dieu, comme à l'époque de Noé, et ainsi de suite. Et qu'est-ce que cela a pour effet? De condamner les croyants intellectuels à recevoir le jugement. Cela a toujours été. Quand on repousse la miséricorde, il ne reste plus que le jugement. Donc, cela prépare l'intellectuel et l'incroyant à recevoir le jugement. Parce que c'est ce qu'ils font. Ils condamnent la chose. C'est pour cette raison que les Juifs ont mangé leur propre chair. C'est pour cette raison que le sang a ruisselé jusqu'à l'extérieur de la ville quand Titus, le grand général romain, l'a assiégé. C'est parce qu'ils avaient rejeté le Saint-Esprit. Le jugement était inévitable parce qu'ils s'étaient moqués de cela. Jésus leur avait dit au moment où il appelait Belzébul, alors il avait dit, « Je vous pardonne, l'expiation n'avait pas été faite. » Mais il a dit, « Quand le Saint-Esprit sera venu faire la même chose, de parler contre lui ne sera jamais pardonné. » Et cela n'a jamais été pardonné à cette génération-là. C'est vrai. Le jugement pour l'incroyant s'est présenté dans ce but-là, pour éclairer le croyant et pour plonger l'incroyant dans les ténèbres. Tout comme la colonne de feu, elle éclairait pour permettre de traverser vers le pays promis, et elle plongeait dans les ténèbres ceux qui ne croyaient pas. C'est ce que font toujours les signes de Dieu, fermer les yeux de l'incroyant et procurer la vue et la lumière au croyant pour lui permettre de marcher. Voilà pourquoi cela est envoyé. Si sa prophétie est vraie, si la prophétie du prophète est vraie et qu'elle s'accomplit, alors c'est l'avertissement de Dieu. Bon, dans Nombre 12, 6, nous voyons la même chose dans l'Écriture. La Bible a été écrite par ces hommes. Or, si nous lisons dans 2 Pierre 1:21, il est dit, « C'est poussé par le Saint-Esprit qu'autrefois les hommes ont écrit la Bible. » De même, dans Hébreux 1.1, ce dont nous avons parlé l'autre soir, après avoir, à plusieurs reprises et plusieurs manières, parlé à nos pères, par les prophètes, Dieu, en ces jours qui sont les derniers, nous a parlé par Jésus-Christ, son Fils, la colonne de feu, le signe, la voix, où la voix allait parler, la colonne de feu dans le buisson, c'était une voix impressionnante qui indiquait que Dieu était sur le point de parler. Remarquez, que ce soit clair, là, ne manquez pas ceci. Quand Myriam s'était moquée de son frère Moïse, elle qui était prophétesse, quand elle s'est moquée de lui et que Dieu est descendu dans cette colonne de feu, Moïse a su que Dieu était sur le point de parler. C'était un signe. Et la voix qui accompagnait ce signe a dit, « Ne craignez-vous pas Dieu? » Il a dit, « Il n'y a personne dans ce pays comme mon serviteur Moïse. » Ils ont fait la même chose quand ils se sont soulevés, qu'ils ont dit qu'il y avait, quand Dathan s'est soulevé, et qu'en Corée, dans la révolte de celui-ci, il y a dit, « D'autres hommes saints à part toi, tu te crois le seul du groupe. » Dieu avait décidé Moïse à remplir cette tâche. Et alors qu'il voulait avoir un autre groupe de gens à les suivre, qu'il voulait former une organisation, il a dit, « Sépare-toi d'eux. Je vais les condamner, je vais les consumer. » Et c'est ce qu'il a fait. Le monde les a emportés. Maintenant, nous voyons que cela a toujours été la manière de faire de Dieu. La colonne de feu indique que la voix est sur le point de parler. Oh, Texas! Comment pouvez-vous être si aveugle? Vous vous souvenez encore de Houston? Maintenant, il y a une voix qui accompagne le signe. Moïse. Un prophète, un signe prophète pour Israël. La promesse que la parole est sur le point d'être confirmée. Comme la parole de Dieu est parfaite, bien réglée à tout coup. Tout comme l'Urim Thurim dont je parlais l'autre soir. L'Urim Thurim était là et à moins que ce signe ne se reflète sur l'Urim Thurim, la voix n'était pas acceptée. Il faut qu'il y ait un signe. Le signe confirme la voix, et la voix confirme le signe, ce qui montre qu'il vient de Dieu. Et la voix du signe, c'est ce qui dit oui ou non. Si Dieu l'a refusé, alors la voix dit non. Le signe était là, Dieu avait dit oui. L'ordre établi par Dieu n'a jamais changé. Nous pourrions nous attarder pendant des heures là-dessus, mais ça n'a jamais changé. Regardez Jonas, le prophète. Regardez ce signe-là. Il était en route pour Tarsis. Il allait se rendre à Ninive, et il a pris une route qui menait à Tarsis. Beaucoup ont condamné Jonas. Jonas ne mérite pas d'être condamné, c'était un prophète. L'Éternel a fermé les pas du juste et il s'était mis en route vers Tarsis. Et nous voudrions condamner cet homme, mais Jésus, lui, ne l'a pas fait. Remarquez, il a dit, de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre du grand poisson, cela devait servir de signe. De même, le Fils de l'homme devra être 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Et une génération méchante et adultère recherche un miracle. Il ne sera donné aucun signe de la part de Dieu, souvenez-vous-en, autre que celui du prophète Jonas. Le signe de Jonas, qu'est-ce que c'est? La résurrection. Et cette génération aussi est cette génération sodomite. Adultère en adultère spirituel, commettant des fornications spirituelles contre la vérité de Dieu, se moquant d'elle. Une génération méchante et adultère recherchera un miracle et elle le recevra. Ce sera le signe de la résurrection. Regardez Jonas. Ces gens-là, c'étaient des païens. Et c'était une grande ville commerciale. Son industrie principale était la pêche. On expédiait du poisson partout dans le pays. Les hommes de là-bas étaient pêcheurs, c'était leur métier. C'était des païens qui se livraient au culte des animaux et des idoles, et ils étaient devenus très méchants, tout comme cette nation l'est actuellement, remplie de sexe et de Hollywood, et de toutes sortes de choses, jusque dans les églises même. Remarquez ce qui se passe. Eh bien, parfois même, le sex-appeal est qualifié de moderne dans l'église. Comment cette nation pourrait-elle subsister alors qu'elle soutient ce genre de choses? Vous vous êtes chrétien et vous réglez votre conduite sur ce genre de choses. Comment pourrait-elle subsister? Comme mon bon ami Jack Moore l'a dit il y a des années, si Dieu ferme les yeux sur ce qu'elle a fait cette nation, il sera obligé, en tant que Dieu juste, de ressusciter Sodome et Gomorre pour s'excuser auprès d'elle et de l'avoir brûlée. Vous êtes voué au jugement. Il faut l'admettre, il n'y a pas de moyen de faire autrement. Notez ça dans vos Bibles, je deviens vieux, vous verrez, il ne va pas être jugé. Si j'ai une longévité normale, une durée de vie normale, je serai là pour voir cela. Encore quelques années, ce sera là. Jonas, ils étaient tous là en train de pêcher vers midi. Et voilà le dieu de la mer qui arrive, la baleine, qui s'avance en vitesse vers le rivage et vomit le prophète sur le rivage. Quel signe! Dieu leur a apporté son prophète muni d'un message. Là, ils l'ont vu, le signe, ils croient à ce signe. Mais maintenant, le message, qu'est-ce que c'est? Repentez-vous! Voilà le signe, la voix du signe. La voix du signe, c'est « Repentez-vous, sinon dans 40 jours, vous périrez. » Ils ont eu assez de bon sens pour se repentir. Jésus a dit, il condamne cette génération parce qu'ils se sont repentis à la prédication de Jonas, et ici, il y a plus que Jonas. La voix, c'était, repentez-vous, sinon dans 40 jours, vous périrez. Jean le prophète apparut, le signe d'un prophète, qui apparut alors qu'il n'avait pas eu de prophète depuis 400 ans. Ils avaient eu tous les intellectuels, je vois ici le gâchis dans lequel ils se trouvaient. 400 ans sans prophète, mais le moment de la venue du Messie approchait. Or, Jean, qui était prophète, était le signe que le Messie était sur le point de parler. La voix du signe. En effet, dans Malachie 3, nous voyons, « J'enverrai mon messager devant ma face. » Élie devait venir devant sa face. Élie est venu. Jean, avec l'esprit et la puissance d'Élie, est venu et a fait exactement ce que les Écritures avaient fait et ils n'ont pas compris. C'est ce que dit l'Écriture. Il était le signe, un signe prophète qui indiquait que le Messie allait parler. Ce prophète le savait, il le savait si bien qu'il a déclaré, « Eh bien, au milieu de vous, il y a quelqu'un en ce moment. Ce Messie dont je parle est au milieu de vous. Je ne suis pas digne de délier ses souliers. C'est lui qui baptisera du Saint-Esprit de feu. Moi, je baptise d'eau pour amener à la repentance. Mais il vient après moi, et il est au milieu de vous en ce moment. Un jour, il a vu s'approcher un jeune homme. Il a vu cette colonne de feu sous la forme d'une colombe qui descendait du ciel, et une voix dit, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je me plais à demeurer. » Il a dit là, « En qui je me plais à demeurer. » C'est simplement le verbe qui précède l'adverbe, donc c'est pareil. « En qui je me plais à demeurer » ou « En lui, qui je me plais à demeurer », ça ne change rien. Remarquez, « Je me plais à demeurer en lui. » Jean a dit, « J'en rends témoignage. » Celui qui m'a parlé dans le désert, pas dans les cimetières, dans le désert, m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et demeurer. » Amen. C'est lui qui baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et j'en rends témoignage, c'est la vérité. Qu'est-ce que c'était? Ce prophète était le signe que le Messie était sur le point de parler. Le Messie, c'était quoi? Le Messie, c'était la parole dans sa plénitude. Il était la plénitude de Dieu. Les prophètes étaient une petite lumière vacillante, mais en lui, il y avait toute cette lumière dans ce Messie, car il était le Dieu manifesté qui s'était fait Emmanuel, Dieu parmi nous, dans une chair humaine. Le Messie était sur le point de parler. Et remarquez, la Bible dit que la parole du Seigneur vient au prophète. En voici Jean, celui de qui Jésus a dit qu'il était le plus grand prophète qui ait jamais vécu. Jésus l'a dit dans Matthieu chapitre 11. Qu'êtes-vous allé voir? Un homme agité par tous les vents? Cette dénomination qui dirait, je te donnerai plus, tu n'as qu'à faire ceci. Pas Jean. Non, non, non. Un homme qui se laisse marcher sur les pieds, bluffé. Non, c'était un prophète rude qui ne marchait pas ses mots. Êtes-vous allé voir un homme en grande tenue qui porte la soutane? Il a ajouté, non, eux, ils demeurent dans les palais des rois, ils marient les jeunes, ils embrassent les bébés, ils enterrent les vieux. C'est ce genre-là. Ils ignorent tout d'une épée à deux tranchants. Alors qu'ils vont aller voir un prophète? Il a dit plus qu'un prophète. Bien sûr, il était le messager de l'Alliance, celui que Dieu avait promis d'envoyer. Et remarquez, voici Jean qui est dans l'eau en train de baptiser et qui dit, il vient. Et voici la parole qui n'est plus au ciel, mais qui a été faite chair. La parole est faite chair. Qu'est-ce qui arrive ensuite? Quel est l'ordre établi dans l'Écriture de Dieu? La parole est venu au prophète, juste là, dans le désert, juste là, dans ce bassin d'eau, la parole est venue au prophète. Jean a levé les yeux, il a dit, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. » Et ce vieux, le docteur Davis de l'Église baptiste missionnaire qui m'a baptisé dans la foi chrétienne, s'il est ici ce soir, je ne dis pas ça pour le blesser, c'est qu'il habite au Texas, dans la région de Davis Mountain. Mais je me souviens qu'un jour, nous avions discuté là-dessus, je n'étais qu'un jeune homme, et j'ai dit, ça ne sonne pas juste, docteur Davis. Il disait, ce qui est arrivé, c'est qu'à ce moment-là, Jésus a baptisé Jean, après quoi Jean a baptisé Jésus parce que Jean n'a pas été baptisé. Ça ne me semblait pas juste. J'ai continué à attendre, à veiller, à me demander ce qu'il en était. Je ne voulais rien dire à ce sujet, mais un jour-là, le Seigneur l'a révélé. Maintenant, remarquez ce que Jésus a dit. Jean a dit, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, alors pourquoi viens-tu à moi? » Jésus a dit, « Laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Jean savait qui il était. Il avait là les deux leaders du monde, les deux leaders de l'Église. Dieu et son prophète se trouvaient là ensemble. Maintenant, regardez bien, ils étaient bien placés pour le savoir. Jésus a dit, « Laisse faire, c'est juste, mais il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste, la parole promise. Le sacrifice devait être lavé avant d'être présenté. » Jean a baptisé Jésus parce qu'il était le sacrifice, voyez? Le sacrifice devait être lavé avant d'être présenté. Il s'est avancé là et le sacrifice a été lavé, puis il a été présenté comme il se doit. Il a dit, « Voilà l'agneau de Dieu. » Il est remonté sur la rive et voici l'Esprit de Dieu est descendu sur lui, disant, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. » Voyez-vous, c'est là qu'il a présenté publiquement. Mais avant que le sacrifice puisse être présenté, il devait d'abord être lavé. C'est la loi de l'Ancien Testament. Très bien. Le Messie était sur le point de parler, puisqu'il y avait là le signe du prophète. Et quand ils ont vu arriver ce prophète, après cette période de 400 ans sans prophète, ils savaient que la prochaine voix serait celle du Messie. Maintenant, vous qui lisez la Bible, réfléchissez sérieusement pendant quelques minutes. En observant sa nature, comment se fait-il qu'il ne l'ait pas reconnu? Comment se fait-il qu'il n'ait pas reconnu que c'était lui, Jean? Sa nature avait été identifiée. Son esprit et sa nature avaient été identifiés comme étant ceux d'Élie. Maintenant, remarquez de quel esprit il s'agit. Or, lui, c'était Jean-Baptiste, mais l'esprit d'Élie était sur lui. Remarquez, d'abord, Élie est un homme qui aimait le désert. Vous voyez? De même, Jean était un homme qui vivait dans le désert. Et Élie était un homme qui avait condamné toutes ses forces le système des organisations de cette époque-là. Jean aussi, race de serpent. Qui vous a appris à fuir la colère? Ne vous mettez pas à dire j'ai ceci, cela ou autre chose. De Saint-Pierre, Dieu peut citer l'enfant Abraham. Vous voyez, les deux natures. Et regardez Élie, il avait condamné toutes ces Jézabels au visage fardé de son époque, ces femmes immorales. Et Jean, qu'est-ce qu'il a fait? La même chose avec Hérodias. Pour tous les deux, ça a été une cause de mort. Regardez Élie, après avoir accompli cet important travail, il était mélancolique, il s'était couché là-bas, il avait prié Dieu de venir le chercher. Jean a fait la même chose, et même, il était couché là-bas, il a envoyé ses disciples en disant, allez lui demander, est-ce bien lui ou devant en entendre un autre? Il était lui, il fallait que ce soit la même nature. Il était parfaitement identifié à ce qu'Élie avait été, il avait l'esprit d'Élie. Cet esprit-là, il doit venir à 5 reprises à être utilisé. Élie, Élisée, Jean, Maléchicat et ensuite pour les Juifs. Les derniers jours, nous y sommes ce soir. L'esprit d'Élie. Remarquez. Aujourd'hui, je veux que vous considériez les prophètes. Achab contemporain que nous avons aujourd'hui, ils laissent leur Jézabel se couper les cheveux, se farder les visages, porter les shorts, fumer la cigarette, faire n'importe quoi. Ce n'est pas grave. Nos prophètes Achab d'aujourd'hui, ils suivent la tendance de leur école. Bien sûr, ils mènent les gens par les credos faits de main d'homme et par des dénominations. Qu'est-ce que c'est? Des prophètes Achab! Nous avons besoin qu'un autre Miché entre en scène. Ou du temps d'Achab, c'est Élie qui est entré en scène. C'est lui qui a été promis. Ils mènent les gens en les laissant suivre la voie qui leur plaît, sinon on ne les traite pas bien de ce côté-ci, ils iront de ce côté-là, adhérer à ceci tout en continuant à maintenir leur profession de foi chrétienne. Eh bien, ils n'ont jamais été sauvés de part. Leur nature même le prouve. Peut-on cueillir des raisins sur un arbuste épineux? Peut-on faire produire des pastèques à un plant de citrouille? Leur nature même démontre qu'ils ne veulent avoir rien à faire avec la parole. Ils s'en moquent, ils la blasphèment. Alors qu'il est écrit, « Ainsi dit Seigneur, ces choses doivent arriver. » Ils tournent cela en dérision et ils s'en moquent. Ce n'est pas étonnant que Jésus a dit, « La reine du midi se lèvera avec cette génération dans les derniers jours et elle la condamnera. » Parce qu'elle est venue des extrémités de la terre pour voir un homme qui avait un don de sagesse. Il a dit, « Il y a ici plus que Salomon. » Bien sûr. Salomon, c'était son époque, a été l'une des époques les plus glorieuses. Les gens ont tous eu foi dans ce don de Dieu qui leur avait été donné en Salomon. Et sa renommée s'était répandue partout. Qu'en serait-il de nous, les gens d'aujourd'hui? Nous autres, Américains, nous cherchons toujours à élaborer un programme anticommuniste. Le programme de Dieu, le voici, repentez-vous, tournez-vous vers Dieu. Un programme, si les gens agissaient simplement en fonction de celui-là, on ne penserait plus au communisme. Alors que tout Israël avait cru à ce don que Dieu leur avait donné, si l'Amérique voulait simplement donner, croire au don que Dieu nous a donné en ces derniers jours, son Fils, sous la forme du Saint-Esprit, ressuscité des morts, vivant parmi nous, selon sa promesse. Si seulement nous chérissions cela, ça n'atteindrait que les élus, car nul ne peut venir à moi si mon Père ne l'attire, et tous ceux que le Père m'a donné viendront. Il suffit de semer la semence, elle tombe une partie de ce côté-ci, une partie de ce côté-là, mais on sème la semence de toute façon. Elle prendra racine où elle se trouve, et elles saisiront. Remarquez, ils en étaient là, et nous voyons qu'à cette époque Achab, cette nation-là avait amené ses Israélites à faire tout ce qu'ils voulaient, tout en continuant à faire profession d'être Israélites. Oh, Élie a condamné cette génération-là de tout son être. Et Dieu a confirmé ce qu'il était. Il était prophète juste avant la venue. Jean a fait la même chose. Il s'est avancé tout droit en Israël. On avait marié cette femme à Hérode, la femme de son frère Philippe. Il s'est avancé tout droit vers lui. Il l'a affronté, il n'a pas mâché ses mots, il n'avait pas peur qu'un surveillant le mette à la porte, il n'avait pas de carte d'association, il s'était associé avec Dieu seul, il était son prophète, la parole était avec lui, il n'avait pas allé interroger aucun évêque ni aucun diacre, il était loin, il avait la parole, il s'est avancé tout droit vers lui, il lui a dit en face, il n'était pas permis de l'avoir. C'est vrai, il n'a pas épargné personne. Ces femmes méchantes qui commettaient l'adultère, qui se conduisaient mal, C'est comme Amos quand il est entré en scène. Il a promené le regard là-bas. Nous ne savons même pas d'où il venait. Oh, quel regard il a dû poser sur la ville de Samarie. Les touristes, eux, la trouvaient toute belle avec ses prédicateurs qui étaient tout en harmonie avec les nations et de connivence avec les nations, avec tout le monde, mais on vivait toujours dans le péché. Il a plissé les yeux, son crâne chauve luisait, et ainsi il s'est présenté. Il ne payait pas de mine, mais il avait l'insidie du Seigneur. Nous avons besoin qu'un Amos entre en scène aujourd'hui. Serait-il bien reçu chez nous? Certainement pas plus que lui. S'il entrait en scène, il démolirait chaque organisation, chaque dénomination, chaque femme qui porte des shorts, chaque Jézabel aux yeux, cheveux coupés. Il les démolirait carrément. Les gens le jetteraient à la rue en disant cette espèce de fanatique, mais il aurait l'insidie du Seigneur, car c'est bien ce qui est écrit. Bien reçu par les dénominations? Non, il n'y avait personne qui parrainait son programme. Est-ce que cette grande et belle ville de convoitise qui était Samarie, est-ce qu'on y ferait bon accueil à ce petit homme, un inconnu qui n'avait pas de carte d'association, que personne ne parrainait ni rien, il n'avait pas de parrainage de personne, il n'avait pas de carte d'association, il n'était sorti d'aucune école, mais il avait l'insidie Seigneur. Et sa venue en tant que prophète était un signe. Sa voix venait de Dieu et elle était identifiée du temps de Jéroboam II. Tout ce qu'il a dit s'est accompli. Maintenant, nous voyons qu'en ce jour où nous vivons, c'est tout simplement la même chose qui se reproduit de nouveau. Les ministres et les gens, ils ont honte de prendre position en chair et l'Évangile, pour eux, ce n'est plus qu'un gagne-pain. Ils ne veulent pas se prononcer de peur qu'un homme les exclue ceci, cela ou autre chose. Il n'y a qu'un seul homme qui puisse vous exclure du ciel. C'est Dieu. Et comment pouvez-vous être exclu du ciel alors que vous en tenez à la parole? C'est pour ça qu'il a vous envoyé. Souvenez-vous, la Bible dit que c'est un temps semblable au jour d'Élie, en un jour semblable au jour de Jean, que Malachi 4 va revenir sur terre de nouveau. J'enverrai Élie. Or, ne confondez pas ça avec Malachi 3, là, j'envoie mon messager devant ma face. Là aussi, c'était Élie. Mais dans Malachi 4, il a dit, juste avant que le jour de l'Éternel arrive, ce grand jour, grand et redoutable, où la terre entière sera ardente, comme une fournaise, où les justes sortiront en foulant la cendre des méchants, ça c'est le millénium. J'enverrai Élie, le prophète. Et que fera-t-il? Il ramènera la foi des enfants au Père apostolique, à la parole. Il devra forcément être un prophète. Je l'enverrai. Il sera parfaitement bien identifié. Il aura la même nature qu'Élie, tout à fait. Son message sera exactement du même genre. Il condamnera, il démolira. Aucune association, aucune collaboration, rien du tout. Mais il aura l'insidie du Seigneur. Maintenant, souvenez-vous, toutes sortes de groupes se sont levés en disant « Le manteau d'Élie, c'est ceci. La doctrine d'Élie, c'est ceci. » Tout un groupe, une organisation qui devient le groupe d'Élie ou le manteau d'Élie. Ce n'est pas l'Écriture, ça. Jamais Dieu n'a traité avec un groupe comme ça. Quand Élie est entré en scène, et Jean-Baptiste aussi, tous les deux ont condamné les groupes et l'organisation. Jamais ils n'ont fait ça. Ils condamnent ces gens, leur conduite. Élie et Jean, tous les deux, non pas un groupe ni une dénomination, mais tous les deux, à chacun à son époque, ils ont condamné les groupes et les organisations. Et alors, le signe du temps de la fin accompagnera certainement la voix du temps de la fin. Élie doit entrer en scène, un homme moins de cet esprit-là, un homme des bois et tout, un amoureux des bois qui entrera en scène pour confirmer ça. Bon, maintenant, regardez bien ce que dit l'Écriture comme ça, vous ne serez pas séduits. Voyez-vous, le signe du temps de la fin est la voix du temps de la fin. Jamais Dieu n'a traité avec un groupe nulle part dans l'Écriture. Il traite avec un seul individu parce que tous les hommes sont différents les uns des autres. Tous les hommes. Nos pouces sont différents, nos nez sont différents, nos actions sont différentes. Il met la main sur un seul homme pour pouvoir amener celui-ci à être en harmonie tellement parfaite avec la parole qu'il deviendra cette parole. C'est pour ça que Paul a dit, « Pour que je ne sois pas enflé d'orgueil au point de m'élever au-dessus de l'excellence de cette révélation, il m'a été donné un ange de Satan. » Vous voyez, Matthieu a écrit, Luc a écrit, Marc a écrit, tous ceux-là, mais eux, ils avaient seulement suivi Jésus et écrit ce qu'il avait dit. Mais Paul, lui, avait la révélation de qui il était. Voyez-vous, c'est ça qu'il voyait. Il en avait une si grande révélation qu'il lui a fait écrire la Bible, comme Moïse de l'Ancien Testament. Ce grand homme, Paul, cette révélation qu'il avait, il savait que le Jésus du Nouveau Testament était le Jéhovah de l'Ancien Testament. Il en avait la révélation. Il pouvait présenter cela clairement en hébreu, aux Romains, aux Éphésiens et à tous. Il a écrit ses lettres. Remarquez, c'est après l'apparition de son signe qu'il a écrit ses lignes, ses lettres. Cette nature, la venue, ce sera la même. Ce ne sera pas un groupe, ce sera un seul homme. Jamais Dieu n'a traité autrement que par un seul homme. Or, Élie n'était pas un groupe. Jean-Baptiste n'était pas un groupe. Ils étaient un seul individu. Dieu, dans Malachi 4, ne dit pas « j'enverrai un groupe ». Il a dit « j'enverrai Élie ». On ne peut pas modifier la parole. Maintenant, observez, le signe et la voix du temps de la fin viendront selon l'ordre établi par l'Écriture comme promis. Nous voulons savoir quel sera le signe de la fin. Jésus nous l'a dit dans Matthieu 24, 25. Il nous l'a aussi dit dans l'Apocalypse, tout au long, dans chapitre 6, au chapitre 1, jusqu'au chapitre 10. Puis il arrive au chapitre 19, le millénium commence quand il arrive, monté sur un cheval blanc. Il viendra, ce signe, du temps de la fin. Maintenant, écoutez, je termine avec ceci. Il viendra exactement comme l'Écriture le dit. Maintenant, remarquez, la voix du signe. Or, Jésus, dans Luc 17, 30, a promis ce signe du temps de la fin. Le dernier signe, c'était Dieu manifesté dans un corps humain qui a pu discerner les pensées de l'esprit de Sarah qui se trouvait derrière, dans la tente derrière elle. Voilà ce qu'il a dit. Voilà le signe qu'il a promis pour la fin. Qu'est-ce qu'il a dit qu'il produirait? Il serait connu dans les derniers jours, quand le Fils de l'homme se révélera. Se révélera. Quand le Fils de l'homme se révélera, c'est par ce signe-là qu'il se révélera. Maintenant, voyez si ce n'est pas ça qui est dit. Absolument. Alors, pourriez-vous dire que non, ce sera quelque chose d'autre? Non, ce sera de construire un grand édifice, un grand ceci, un grand cela, un grand conseil œcuménique ou quelque chose d'autre? Oh non, 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 ça c'est complètement à côté de la plaque. Ça c'est du côté opposé. C'est contraire à ce que Dieu a dit de faire, a dit qu'il ferait. Remarquez, ce que nous avons dit, les Écritures correspondent parfaitement. En effet, nous avons déjà les signes de Sodome sur le plan naturel. Quand y a-t-il eu autant d'homosexuels? De perversion, et tout ça qu'il y en a maintenant. Une génération méchante et adultère, alors qu'on ne peut même pas allumer la télévision sans qu'il y ait ces espèces de grossièreté, d'obscénité qui viennent d'Hollywood. Et des gens qui se disent chrétiens, au lieu d'aller à la réunion de prière, ils restent à la maison pour regarder des choses pareilles. Ça montre quel esprit qu'il y a en vous, c'est vrai. Et les femmes s'habillent exactement comme ces femmes et les hommes les laissent mener par le bout du nez par elles comme ils le font là-bas. Est-ce que nous allons prendre pour exemple sur Hollywood ou bien nous allons croire ce qu'en dit la parole de Dieu? Et ce même groupe de gens, quand ils voient la parole de Dieu confirmée, qu'est-ce qu'ils font? Ils se moquent de ça. C'est-ce qu'ils sont morts? Éternellement morts. Ils n'ont jamais été en vie. S'ils avaient déjà été en vie, ils seraient pour toujours. Ils sont éternels. Mais ils n'ont jamais été en vie. Ils ont toujours été morts. Ils ont peut-être des manières affinées. Ils croiront ceci, cela, autre chose. Jésus a dit, hypocrite, aux sacrificateurs de cette époque-là, comment pourriez-vous dire de bonnes choses alors que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle? Vous m'appelez bon, bon, Rabbi, mon maître. Ils savaient ce qu'il y avait dans leur cœur. Ils voyaient ce qu'il y avait dans leur cœur. Il était la parole. La Bible dit, la parole de Dieu est plus tranchante qu'une épée à deux tranchants et elle discerne les pensées qui sont dans le cœur. Donc, ce signe de Sodome est réapparu sur le plan naturel. Si tout est bien en place, exactement ce que ça doit être sur le plan naturel, alors comment pouvez-vous faire abstraction du plan spirituel? Pensez qu'il n'est pas ici en même temps. Les deux cordes sont là. Oui, sur le plan naturel. Ça, tout le monde est d'accord que c'est vrai. Mais oh, sur le plan spirituel, ça, ils ne veulent pas le croire parce que ça dérange leur doctrine. Luc 17 est le signe. Luc 17 est le signe dont Jésus a parlé, c'est-à-dire que dans les derniers jours, les nations, les églises et les peuples seraient exactement comme c'était à Sodome, le monde des nations, juste avant que Sodome ait été brûlé. Il y aurait un groupe qui serait dans l'attente comme Abraham. Retournez voir, alors que Jésus a dit, il en sera du temps de Sodome. Retournez voir comment c'était là, Sodome. Il lisait la Bible, la même Bible. Maintenant, retournez voir comment c'était. Il y avait là un groupe élu, appelé à sortir. Le groupe d'Abraham, eux, attendaient un fils promis. Les Sodomites, eux, n'en croyaient rien. Et il y en avait celui qui était tiède, le membre d'Église qui se trouvait dans Sodome. Regardez ces trois anges qui sont venus à chacun d'eux. Observez quels signes ils ont opéré. Alors, vous verrez le milieu de quel signe nous vivons. Alors, voilà quel sera le signe. Et la voix du signe, ce sera Malachie 4, de ramener les gens à la foi apostolique des pères. Voilà le signe. Voilà la voix qui concorde parfaitement avec l'Écriture. Voyez? Le signe, c'est le signe qu'il y a eu à Sodome. Dieu manifesté dans un être humain. Il a dit, « Où est ta femme Sarah? » Il a dit, « Elle est dans la tente derrière toi. » Il a dit, « Je vais te visiter au temps fixé comme je te l'ai promis. » Il a dit, Sarah qui était derrière lui, a dit, « Comment est-ce possible alors que je suis une vieille femme et lui un vieil homme? » Un vieil homme comme mon mari là-bas, il a dit, il n'y aurait plus de cela entre nous. Elle a dit, c'est carrément impossible. Il a dit, pourquoi s'aurait-elle douté de cela en disant dans son cœur, comment ces choses se peuvent? Et Jésus a dit que cela se répéterait. Or, souvenez-vous, Abraham a appelé cet homme Elohim. Dieu! Dieu, ça ne pouvait être que lui. Pourquoi? Il a pu discerner les pensées. Il est arrivé exactement au temps marqué. Et Elohim, le Saint-Esprit, pas une autre personne, la même personne, reviendrait dans l'Église et ferait la même chose, et ce serait ça le signe. Et la voix, ce serait de les appeler à revenir à la parole, de ramener la foi des enfants au Père. Voilà le signe et la voix. Généralement, les signes, on les accepte, mais la voix, non. Les gens n'aiment pas la voix, mais le signe, ça, ils l'acceptent généralement, ils l'acceptent. Ils aiment le signe parce qu'ils aiment regarder ça, ça les divertit. Mais la voix, ça, ils ne veulent pas l'accepter. Souvenez-vous, donc, la voix. Reportez-vous, donc, de nouveau à la parole. Le signe messianique de Jésus, selon Ésaïe 35, le boiteux sautera comme un cerf et tout ça, c'était merveilleux. Oh, ça, ils l'ont accepté. Ça, c'était bien. Ça, ils l'ont cru. Ils ont cru au signe. Viens, Rabbi, à mon église, nous apporterons notre entière collaboration. Bien sûr, nous croyons à toi. Tu es merveilleux. Tu es le rabbin. Tu es le jeune prophète. Viens, toute la collaboration possible. Le signe est merveilleux. Mais quand la voix s'est fait entendre, il dit, « Moi et mon Père, nous sommes un. » Oh là là, ça, il ne pouvait pas le croire. Tu te fais Dieu, il ne voulait pas la voix. Il aimait le signe. Il savait, il reconnaissait que c'était le signe du Messie. Mais la voix, ça, il n'aimait pas. Vous ferez aussi les œuvres que j'ai faites. Ils ont dit, il est Beelzebul. Il a dit, race de serpent. Oh, il haïssait cette voix-là. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont expulsé cette voix du milieu d'eux. Ils l'ont expulsé. Jésus a dit, s'ils appellent le maître de la maison Beelzebul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi ses disciples? Souvenez-vous, dans Apocalypse 3, à l'âge de l'Odyssée, l'Odyssée, c'est maintenant le signe de Sodome doit venir. La voix, revenez à la parole. Détournez-vous de ces credos et de cette dénomination et tournez-vous de nouveau vers la parole. Quand celle-là est venue, selon Apocalypse 3, il a été expulsé de l'Église. Tout comme à cette époque-là, le signe est très bien, mais pas la voix. Ils ne veulent avoir rien à faire avec la voix. Non, non, la voix. Mais Moïse a dit Dieu a dit à Moïse, ils ne veulent pas croire la première voix du premier signe, essaie de leur faire accepter la deuxième voix. Et là, ils se refusent, alors va chercher de l'eau et répands-la sur la terre. Avec ça, c'est réglé, c'est tout. Autrement dit, lave, secoue la poussière de tes pieds, comme Jésus l'a dit. Il a dit, prends de l'eau du fleuve, répands-la sur la terre, elle deviendra du sang, pour montrer que c'est de ça qu'elle sera baignée de sang. Et voilà, c'est exactement ce qui est arrivé. S'ils n'avaient pas cru au signe, alors le troisième signe touchait vraiment le but. Tous les ministères ont trois signes. S'ils ont été envoyés par Dieu, Jésus a eu trois signes. Moïse a eu trois signes. Noé a eu trois signes. Élie a eu trois signes. Pour toutes ces choses, il y a trois signes. Remarquez. Écoutez, mes amis. Il s'est fait un peu tard. Oh là là. Je ne savais pas qu'il était si tard et quart. Si vous pouvez croire aux signes de Sodome, dont il est fait mention dans Luc, voyez, tel qu'il l'a promis, vous croyez au signe de Sodome, alors pourquoi ne pouvez-vous pas accepter la voix de Malachie qui suit le signe, disant de revenir à la parole? La Bible dit, et vous le voyez, alors écoutez la voix du signe. Fuyez la colère à venir! N'allez pas penser, parce que je fais partie de l'EPU, des Assemblées de Dieu, des méthodistes, des baptistes, des presbytériens, ça me donne le droit d'entrer de Saint-Pierre. Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Tournez-vous vers la parole. Abandonnez votre mondanité, vos systèmes organisés, tout ça. Dieu les détruira de la face de la terre. Il les enverra tout au fond de la mer de l'oubli, comme il l'avait fait dans le cas de l'Égypte, au moment où il a appelé Israël une nation à sortir d'une nation. Quand il appellera l'épouse à sortir de l'Église, celle-ci passera par des tribulations et la terre sera baignée dans son sang. Fuyez la colère à venir, car elle est proche. Vous ne pouvez pas voir ces choses sans, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je suis seulement responsable de les lire et d'en parler. À vous de décider. Si vous pouvez croire au signe, alors croyez à la voix qui suit le signe. Oh là là, regardez Moïse, le type maintenant, il faut sortir. C'est lui qui devait parler à ces gens d'une promesse qui avait été faite au Père. Je me souviens de la promesse que j'ai faite à leur Père. Et alors, qu'est-ce que Moïse devait faire? Ramener le cœur des gens à ce que les pères avaient dit. De même que Moïse devait le faire en ce temps-là, de même, Malachi 4 doit ramener les gens à la foi des pères. Au milieu de tout ce mélimélo de démonstration, revenez à la parole. Je sais que vous, que beaucoup de gens aiment le faire. Ce n'est pas juste vous ici que je réprimande. Ces bandes vont dans le monde entier, voyez-vous, partout. Ce n'est pas à vous que j'adresse la réprimande, mais j'adresse la réprimande à quiconque est concerné, n'importe où. Je suis un semeur de semences. Je ne peux rien faire d'autre. La décision, c'est à vous de la prendre, vous tous. Fuyez la colère à venir. N'allez pas penser que parce que vous êtes pentecôtiste, n'allez pas penser que parce que votre mère était une bonne méthodiste sanctifiée ou votre papa est un bon baptiste qui poussait des cris. N'allez pas penser que ça aura quelque rapport que ce soit avec vous. N'allez pas penser que parce que vous êtes membre de l'Église qu'ils ont construite ou de l'Église que vous êtes en train de construire. N'allez pas penser que vous, les pentecôtistes, qu'il y a 40 ans, vous avez parlé en langue, dansé dans l'esprit, couru d'un bout à l'autre de la sœur. N'allez pas penser que vous êtes fait des réunions de guérison et tout. Ne manquez pas de voir ce signe, une colonne de feu que Dieu a confirmé, la voix entière, derrière cela, de se tourner vers Dieu, de revenir à lui. Ne laissez pas cela passer à côté de vous. Il y a un signe et il y a une voix. Quand un homme arrive avec un signe et la même école de pensée qu'avant, alors il y a quelque chose qui cloche. Ça ne vient pas de Dieu. Oh là là. Aplanissez ce sentier maintenant. Alors, vous y croyez? Alors, retournez aux aveugles, aux dispersés, vers les vôtres. La Bible, le compositeur a dit, les nations se disloquent, Israël se réveille. Les signes que la Bible a prédits. Les jours des gentils sont comptés, ils sont remplis d'effroi. Retournez ou dispersez vers les vôtres. Venez, revenez. Le prophète a dit, au temps du soir, il y aura de la lumière. Juste avant qu'il y ait obscurcissement total du soleil, il y aura de la lumière. Marchez dans la lumière pendant qu'il y a de la lumière. Bientôt, le conseil œcuménique vous possédera et alors il n'y aura plus moyen d'avoir de la lumière. Inclinons la tête. Père céleste, maintenant c'est entre tes mains. J'ai semé la semence, je ne sais pas où elles sont tombées. Je te prie de les bénir où qu'elles soient. Puissent-elles s'implanter très profondément, extirper tous les endroits pierreux, déraciner toutes les ronces, en quelque sorte, et éliminer toute incrédulité. Accorde-le, Père. Nous te remettons maintenant ceci, au nom de Jésus-Christ. Amen. Pendant que vous avez la tête inclinée, les yeux fermés, demain soir, il y aura un banquet. C'est aux pécheurs de la ville que je, si le Seigneur le veut, que je devrais parler. En ce moment, je parle à une assemblée mélangée. Je n'oserais pas prêcher ceci, ça ne ferait que les rendre plus aveugles que jamais à une réunion comme celle-là. Par contre, vous, ce soir, croyez-vous que vous avez vu le signe et pouvez-vous entendre la voix? Si vous l'avez vu et vous croyez, et vous qui ne l'avez pas fait, que vous croyez, mais que vous ne l'avez pas encore accepté, Christ, dans sa plénitude, voulez-vous vous lever la main? Que toutes les têtes soient inclinées, les yeux fermés. Levez la main pour dire, pensez à moi, frère Branham, pendant que vous prierez, je le ferai volontiers. Que Dieu vous bénisse. Notre Père céleste, la Bible dit, tous ceux qui crurent se firent baptiser. Je prie, Seigneur, que ces gens qui ont levé la main pour signifier qu'ils y croient, s'ils n'ont pas été baptisés du baptême chrétien, puissent-ils trouver l'Église où on le fait et se faire baptiser. Accorde-le, Seigneur. qu'ils ne soient pas seulement baptisés d'eau, ce qui n'est qu'un signe extérieur qui indique que quelque chose s'est produit à l'intérieur. La Bible dit qu'il y a une seule foi, un seul Seigneur, un seul baptême. Et ce baptême-là est un baptême spirituel. Le corps qui est lavé, ça ne sert qu'à illustrer ou à signifier que quelque chose s'est produit à l'intérieur. Mais l'âme, c'est elle qui doit être baptisée du Saint-Esprit, c'est-à-dire que ce qui est éternel doit entrer dans cette nature humaine et transformer cette nature pour produire celle d'un croyant. Je prie qu'ils reçoivent le Saint-Esprit, je te les confie maintenant comme des trophées du message et de la grâce de Christ. C'est en son nom que je fais cette prière. Amen. Maintenant, pendant que vous avez la tête inclinée avec respect, il ne me reste que 7 minutes. Je ne pourrais pas terminer à l'heure prévue. Je ne pourrais pas faire une ligne de prière en si peu de temps. Je vais vous demander de rester assis à l'endroit où vous êtes. Je suis désolé de vous avoir retenu si longtemps. Nous allons prier pour chacun. Vous ici, ceux d'entre vous qui ont des cartes de prière, ne vous en faites pas, nous en occuperons de vous. Mais nous allons simplement voir si le Saint-Esprit voudra bien nous révéler quelque chose maintenant. Si vous croyez en lui et que vous croyez que ceci est le signe, souvenez-vous cet ange, il était un homme. Il a mangé, il a bu, il est en présence d'Abraham. Et pourtant, il a pu, alors même que Sarah était dans la tente, il a pu discerner les pensées qui étaient dans son cœur. C'était ça le signe. Il était la parole. Maintenant, si seulement la parole pouvait venir à nous, alors dans ce cas aussi, il a promis d'accomplir la même chose. Maintenant, vous qui êtes dans l'auditoire, qui n'avez pas de carte de prière et qui savez que vous ne serez pas dans la ligne, moi, je ne peux pas discerner de qui il s'agit à moins que le Seigneur ne me le montre. Et vous croyez que Dieu, bien sûr, guérit les malades? Je veux que vous croyiez en ce moment, pendant ces quelques minutes, et priez simplement. Dites, Seigneur Jésus, je sais que cet homme qui est en train de parler, c'est un homme. Seulement, il nous a dit ce soir, il nous a montré que le Saint-Esprit, que le monde ne peut pas le tuer. Ils ont pu tuer Jésus quand il était en chair. Ils l'ont mis à mort. Mais maintenant, il est ressuscité dans son état glorifié. On ne pourra plus jamais le tuer. Et il a dit, encore un peu de temps, et le monde ne me verra plus. Mais vous, les prédestinés, ceux qui ont été destinés à la vie éternelle, l'Église, l'épouse, vous me verrez car je serai avec vous et même en vous jusqu'à la consommation. Vous ferez vous aussi les choses que je fais. Toutes ces promesses qu'il a faites. Or, je sais que quand il était ici sur terre, Dieu était en lui. Il était Dieu. Il était la plénitude de Dieu. Il était toute la parole de Dieu manifestée. La Bible est toujours Dieu, la parole. Il y a une partie de la révélation qui doit encore être révélée. Il a dit que dans les derniers jours, alors que le monde serait redevenu comme Sodome, le Fils de l'homme se révélerait et que le signe de Sodome réapparaîtrait. Alors la voix appellera les gens à revenir, ceux qui ont été destinés à la vie. Nous savons que quand il était ici, des millions de gens sur cette terre n'ont jamais su qui il était. C'est ce qu'ils n'avaient pas à le savoir, vous voyez. Il est venu à ceux qui avaient été prédestinés à le voir. Maintenant, priez. Restez bien tranquille, là. Ne bougez pas. Où que vous soyez, dans les balcons, aux étages inférieurs, où que vous soyez, ne bougez pas, restez assis bien tranquillement et priez. Dites, Seigneur Jésus, la Bible dit dans Hébreux 4 que tu es maintenant même un souverain sacrificateur qui peut compatir à nos infirmités. Et nous te voyons sur terre quand tu as été sur terre. À un moment donné, une simple femme a touché ton vêtement. Tu t'es retourné et tu as dit, « Qui m'a touché? » Elle a eu beau se cacher, mais sa foi avait été identifiée. Jésus lui a parlé de sa perte de sang. Il lui a dit que sa foi t'a sauvé. Or, ce même souverain sacrificateur, s'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il devra agir de la même manière si vous le touchez. Alors, qu'est-ce que ça implique? Il faut donc qu'il y ait une chair humaine sur terre pour faire entendre sa voix. Je suis le cep, vous êtes les serments. Il n'y a pas moyen de passer à côté, mes amis. C'est tout simplement l'Écriture, c'est la vérité. Vous, les ministres, là-dedans, croyez-vous ça? Maintenant, dans l'auditoire, soyez vraiment respectueux et priez. Dites, Seigneur Jésus, permets que je touche ton vêtement. Et vous voyez, la personne la plus près de moi est à une distance de 20 pieds ou plus. Je ne connais absolument personne dans l'auditoire. En fait, je ne vois personne que je connais vraiment. Assis ce soir, il y a Pat Tyler qui est assis ici à l'avant, un ami à moi. Il y a des gens sur des lits de camp et des brancards. Hier soir, nous avons vu un malade qui était étendu sur un bancard et cet homme s'est levé et est reparti en marchant. Pourquoi pas vous ce soir? Voyez-vous, croyez seulement, c'est tout ce que vous avez à faire. Sa présence produira le résultat. Il est ici, vous devrez vous tenir à ses côtés pour qu'il vous ressuscite au dernier jour. Maintenant, vous qui croyez, s'il vous semble que vous l'atteignez par votre prière, regardez par ici maintenant. Comme Pierre et Jean l'ont dit, regarde-nous. Il regardait attentivement, cet homme regardait attentivement qu'elle s'attendait à voir quelque chose. Il a dit, « Je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai? » Or, la guérison, je n'ai pas ça. Mais ce que j'ai, un don de Dieu, je vous le donne. Si vous le croyez seulement, Dieu l'accomplira. Tout ce que je vous demande, c'est d'y croire. C'est ce que j'ai, je vous le donnerai. Si vous le croyez, Dieu l'accomplira. Essayez seulement. Tenez, tenez, c'est ici en ce moment même. Amen, j'aime ça. Il y a une dame assise juste ici. Elle est assez corpulente. Elle est assise juste ici au bout. Avez-vous une carte de prière, madame? Assez corpulente. Vous n'avez juste ici. Vous n'avez pas de carte de prière, oui? Vous n'avez pas de carte de prière, mais vous croyez? Vous n'avez pas besoin de carte de prière si vous croyez. Ma voix résonne. C'est pour ça que c'est difficile d'appeler les gens comme ceci. Mais essayez de m'écouter aussi attentivement que possible. Je ne vous connais pas. Vous n'avez pas de carte de prière, donc vous ne serez pas sur la salle. Si Dieu me révèle quel est votre problème, croyez-vous que ce serait là exactement la même chose comme il l'avait révélé à cette femme qui était son problème, à la femme au puits, à Sarah qu'elle avait dit, et tout, le croyez-vous? Vous croyez que tout serait, irait bien? Vous souffrez d'une maladie du sang, d'un problème de sang? C'est exact, levez la main. Très bien. Vous ne l'avez plus maintenant. Ça devient lumineux au-dessus de vous. Jésus-Christ vous a honoré. Or, je n'ai jamais vu cette femme de ma vie. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Ça ne peut être que l'esprit? Maintenant, vous pouvez dire, comme les pharisiens, c'est le diable. Eh bien, vous recevrez la récompense. Vous dites, c'est Christ? Vous recevrez la récompense de Christ. Moi, je crois que c'est la parole qui s'identifie en ces derniers jours. Ce n'est pas moi. Tenez, voici une autre petite dame assise juste là. Elle souffre de varices aux jambes. Elle a des complications. Elle est cardiaque. Elle prie pour un être cher. C'est un frère. Maintenant, elle pleure. Elle est en contact. Ce frère est en un état très grave. C'est un diabétique. De plus, il y a une autre ombre sur lui. C'est un pécheur. Vous priez pour lui, c'est exact. Mademoiselle Wilton, si vous croyez de tout votre cœur, Dieu le fera pour vous. Vous le croyez? Ce sont vos noms. Alors ça est différent de ce que Jésus avait dit à Simon. Ton nom est Simon, tu es le fils de Jonas. Ayez simplement la foi, ne doutez pas. Croyez-le de tout votre cœur. Si vous le croyez, Dieu l'accomplira. Si vous pouvez simplement, tenez, il y a une petite dame assise juste là, elle regarde droit vers moi. Elle est plutôt rouquine, elle a les cheveux ramenés en arrière. Ne voyez-vous pas cette lumière de couleur plutôt ambrée qui tourne au-dessus de cette femme? Elle sait que c'est en train de se produire en ce moment parce qu'elle la sent. Elle est tellement près d'elle qu'elle ne peut pas la sentir. C'est exact, madame, levez la main. Voilà. Or, je vous suis totalement inconnu, je ne sais absolument rien sur vous, mais vous étiez assise là en train de prier. C'est vrai. Si c'est vrai, faites ce signe de la main, comme ceci. Maintenant, si Jésus-Christ est le Fils de Dieu, et c'est ce qu'il est, un souverain sacrificateur assis à la droite de Dieu, quant à moi, je suis simplement ici en vertu d'un don, en étant moi-même, en me détachant carrément de tout raisonnement humain, en n'utilisant pas ma propre pensée. C'est un moyen de détendre mon esprit et ma pensée, de simplement laisser Dieu entrer. Croyez-vous qu'il, moi, Dieu sait que je ne vous connais pas, et vous le savez aussi. Alors là, si Dieu me révèle quel est votre problème, ou quelque chose que vous attendez, que vous désirez, ou autre, croyez-vous que Dieu peut faire ça? Vous avez des problèmes de dos. Ça, c'est l'une des choses pour lesquelles vous priez. Vous avez des problèmes avec vos yeux. Croyez-vous que Dieu les guérira et les rétablira? Vous le croyez? Vous le croyez? Croyez-vous que Dieu peut me dire si vous êtes? Madame Allman. Croyez tout de votre cœur maintenant? Ce que vous avez demandé vous sera accordé. Croyez-vous? Voici une femme âgée, assise juste un peu en arrière d'elle, là. Elle est en train de prier, elle aussi. Elle est atteinte du diabète. J'espère qu'elle ne manquera pas ceci. C'est juste au-dessus d'elle. Elle est assez âgée un instant. Puisse le Seigneur m'aider maintenant. Voilà, elle l'a saisi. Très bien. J'ai vu le moment où elle est entrée en contact. Elle n'est pas d'ici. Elle est de la Louisiane. La ville d'où elle vient est un endroit appelé Singer, en Louisiane. Elle souffre du diabète. Son nom est Madame Doyle. Si c'est exact, levez la main. Très bien. Je le suis totalement inconnu. Je ne l'ai jamais vu de ma vie. Mais Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sait tout sur vous. Il y a une dame assise là-bas qui vient de la même ville, un endroit appelé Singer. Elle souffre d'hypertension et son nom est Clark. Vous croyez, Madame Clark? Très bien, ce que vous avez demandé vous sera accordé. Vous croyez? Voilà le signe. Écoutez la voix. Repentez-vous. Revenez à Dieu aussi vite que vous pouvez. Jésus-Christ est ici avec la puissance de sa résurrection. Une génération méchante et adultère reçoit un signe. Jésus-Christ vivant parmi les gens. Il ne pourrait pas accomplir cela s'il n'y avait pas que moi. Il faut que vous aussi, vous y soyez. Voyez, il fallait que la femme touche son vêtement. Il a fallu que vous touchiez son vêtement. Nous ne sommes que des instruments. Croyez-vous de tout votre cœur? Maintenant, si vous croyez ça, combien le croient? Levez la main. Comme ceci, dites, je le crois vraiment. Bon, si vous le croyez, Jésus a dit ceci. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. S'ils imposent les mains aux malades, les malades seront guéris. Croyez-vous ça? Maintenant, il se fait tard. Nous n'avons pas le temps. Il est 21h30. Voulez-vous simplement vous imposer les mains les uns aux autres? Faites simplement ce que je vous dis maintenant. Posez vos mains les uns sur les autres. Maintenant, vous savez, vous, à l'étage supérieur, où que vous soyez? Maintenant, vous savez, et vous savez très bien maintenant, que l'Écriture a été prêchée et clairement identifiée d'un bout à l'autre de la salle. Je vois encore quelqu'un maintenant, voyez, il y a quelqu'un d'autre, juste ici, un problème de prostate, une dame atteinte de tuberculose. Oui, c'est vraiment partout maintenant, mais cela s'affaiblit. Quoi d'autre? Quoi de plus? On en voit 50, parfois il y en a ce nombre-là, la fois suivante, on peut en avoir 70. Jésus l'a fait une seule fois à Sychar et toute la ville a cru en lui. Ils attendaient le Messie. Le Messie est ici. Le Saint-Esprit, le Messie d'aujourd'hui, le Messie qui produit la confirmation de la parole, de sa promesse. Maintenant, je veux que chacun de vous, alors que vous posez vos mains les uns sur les autres, si vous êtes des croyants, maintenant ne priez pas pour vous-même, priez pour l'autre personne, tandis qu'elle priera pour vous. Or, la même parole qui a promis ceci dans les derniers jours a aussi promis. Et souvenez-vous, Jésus a dit, « Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. » La guérison en résulte est la voix qui indique que le signe a été reconnu. Ils imposent les mains aux malades comme signe. La voix est un « Alléluia, le Seigneur m'a guéri ». Or, si ces signes suivent une voix, ce signe, si vous êtes croyant, la voix suivra le signe. Si je vous présente ce signe que je vous ai dit venir de Dieu et que Dieu a promis pour aujourd'hui, il a été présenté si parfaitement que seul un incrédule pourrait ne pas y croire. Voyez? Puis voilà Dieu qui vient le confirmer pour le prouver. Maintenant, il est ici. Maintenant, chacun de vous, priez de la même façon que vous priez dans votre église, que ce soit silencieusement ou à haute voix. Peu importe, priez pour la personne sur laquelle vous avez posé vos mains parce qu'elle est en train de prier pour vous. Et maintenant, levez les yeux. Et dans la présence du Messie, le Christ, le ressuscité qui est toujours vivant après 2000 ans, comment pouvons-nous avoir l'esprit si engourdi? Cela devrait enflammer cette nation. Cela devrait amener Beaumont à se repentir, à prendre le sac et la cendre. Mais le fera-t-elle? Non. Mais vous qui l'attendez et qui croyez qu'il le fera et qu'il tiendra sa parole, c'est à vous là que la promesse est donnée. Posez vos mains sur quelqu'un et priez pendant que moi je prierai pour vous ici. Seigneur Jésus, suffisamment de choses ont été dites, suffisamment de choses ont été faites. La parole qui a été promise a été manifestée. Le Messie, le Christ de Dieu, en cette présence divine, nous le sentons, nous le voyons, nous savons qu'il a promis ceci dans les derniers jours. Ce qui arrivera du temps de Sodome arrivera de même quand le Fils de l'homme se révélera. Donc, nous savons, nous voyons le feu dans les cieux, les bombes atomiques. Nous voyons les nations complètement pourries. Les nations qui se disloquent, nous voyons qu'Israël est dans sa patrie. Tous les signes qui ont pu être promis se sont accomplis. La prochaine étape, c'est la venue du Fils promis. Ô Dieu éternel, dans la présence de Jésus-Christ, le glorieux Saint-Esprit, qui est maintenant ici en train de confirmer qu'il est ici, exauce la prière de ces gens, exauce ces chrétiens. Ici, quand je repartirai, ils ne diront pas, c'est Frère Branham qui a fait ceci, quelqu'un d'autre qui ne connaissait pas leur a imposé les mains, ils ont été guéris. Mais tu l'as promis que la voix aurait un signe, aussi puisse-t-il être guéri alors que je te l'ai confié au nom de Jésus.
Glory to Jesus, hands tell of His love.
Let us stand.
Hands tell of His love. We'll give the glory to Jesus.
Nous allons donner la gloire à Jésus. Racontez. Levons la main et remercions le Seigneur pour ce qu'il nous a donné. Donnons la gloire à Jésus. Et nous allons raconter son amour. Nous allons donner la gloire à Jésus. Et raconter de son amour merveilleux. Chantons-le encore une fois. Remerciez-le pour ce qu'il a fait pour nous. Merci pour cette révélation qu'il nous a donnée. La révélation de cette voix du temps de la fin. Dieu qui appelle son épouse. Et véritablement, nous sommes ses élus. Nous sommes cette épouse qu'il a appelée à sortir. Seigneur Jésus, comme nous te remercions, Seigneur Jésus, pour ta grâce, ton amour et ta miséricorde pour nous, Seigneur. Ce message, Seigneur, est tout pour nous, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur, pour ta parole, Seigneur Jésus. Loué soit le nom merveilleux du Seigneur Jésus. Ne pouvez-vous pas voir pourquoi je suis heureux? J'ai accepté la parole du Seigneur. Oui, Seigneur Jésus. La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachie. Merci, Seigneur. Ne pouvez-vous pas voir pourquoi je suis heureux? Êtes-vous heureux ce soir? Loué soit le Seigneur. J'ai accepté la parole du Seigneur. Qu'est-ce que c'est? La parole révélée qui fut prononcée par le prophète de Malachie.
Let's sing it.
Chante-le encore. Et merci, Seigneur.
Oh, can't you see why I'm happy? Yes, Lord.
Oui, Seigneur.
Oh, I've accepted the word of the Lord. Oh, the revealed word that was spoken by the prophet.
Inclinons nos têtes et fredonnons-le.
Can't you see why we're so happy?
Pouvez-vous pas voir pourquoi nous sommes si heureux?
We've accepted
nous avons accepté ce message
that we were predestined
que nous étions prédestinés à accepter.
Father, tonight we see
Père, ce soir, nous voyons notre nom écrit dans, ce nom, dans le livre de l'agneau.
Father, you're everything
Père, tu es
Lord.
Tout pour nous, Seigneur.
This word, this message,
cette parole, ce message, cette nourriture emmagasinée que tu as pourvue pour nous.
Lord, we love
Seigneur, nous
we
t'aimons
thank
et nous te remercions,
Lord.
Seigneur, pour
we
cela. Nous te remercions
message,
pour ce
Lord,
message d'un seul homme, que nous n'avons pas besoin de se poser des questions et de combattre.
Right?
Et est-ce que ça c'est bon? Est-ce que nous on peut s'asseoir et relaxer? Tu es notre repos, parce que cette parole est tout pour nous, Seigneur. C'est la parole de la vie éternelle.
Oh,
et tu as appelé une épouse qui reconnaisse cette voix. Nous avons vu les signes. Nous voyons Dieu qui se révèle dans la chair humaine. Et cette voix qui crie à cette épouse. Oh, nous te remercions, Seigneur Jésus. Nous te remercions pour ce groupe de gens. Je suis reconnaissant d'être identifié avec cette épouse à travers le monde entier, Seigneur, qui aime ce message et son messager, Seigneur Jésus. Et Père, tu as révélé que cette parole est la parole vivante qui vit à l'intérieur de nous, Seigneur Jésus. Père, nous te remercions d'être avec nous ce soir. Nous te remercions pour cette grande opportunité que nous avons, Seigneur, d'écouter cette nourriture emmagasinée, cette nourriture que les paroles même que nous écoutons, et tu les as faites résonner dans les cieux. Oh, comment plus grands sont ces paroles que nous avons le privilège d'entendre avec nos propres oreilles. Nous t'aimons et nous t'adorons, Seigneur Jésus. Père, nous savons que tu viens pour ton épouse et que cela se sera bientôt. Écoutant cette parole, Seigneur, que c'est l'épouse qui se prépare, Seigneur. Nous te remercions que nous sommes capables de nous réunir ce soir autour de cette table pour le souper. Et Père, que tu nous pardonnes de tous nos péchés, de toutes nos fautes et nos manquement. Père, que nous puissions venir à cette communion ce soir. Que leurs pensées puissent retourner à ce calvaire lorsque ce sacrifice suprême que tu as pris tous nos péchés, tous nos manquements, toutes nos fautes, et tu les as pris sur toi-même, Seigneur. Et Seigneur, tu es mort sur la croix, Seigneur, ce sacrifice pour nous. Seigneur Jésus, et c'est ce corps brisé, et ces coups de fouet sur ton dos, Seigneur, et nous sommes sauvés, et nous sommes guéris de toutes nos maladies. Peu importe ce que nous demandons en notre nom, nous croyons que nous pouvons le recevoir, Seigneur. Père, c'est une réalité, Seigneur, et nous le croyons que toutes ces requêtes, Seigneur, chacune de celles que nous avons, que nous avons imposé les mains les uns sur les autres, que nous croyons que nous sommes des saints, que lorsque tes saints poseront les mains les uns, que tu répondras à chacune des requêtes, Seigneur. Et Père, comme c'est merveilleux, ensuite de cela, ton prophète a dit, mais il y avait un signe, et il y avait une voix. Et Seigneur, nous croyons cette voix. Et nous croyons cette voix. Va appeler, introduire et dire, voici l'agneau de Dieu, celui de laquelle je vous ai parlé. Et cela sera très bientôt, Seigneur Jésus. Nous attendons à la venue du Seigneur. D'un moment à l'autre, notre Seigneur va venir. Il va revenir pour vous et moi. Oh, j'ai surveillé. Et j'ai attendu.
Just any day now,
d'un moment à l'autre,
his face I'll see.
Je le verrai. Je chantonne encore une fois. Croyez-vous cela avec du plus profond de votre cœur? D'un moment à l'autre, épouse, notre Seigneur va venir. Oh oui, il revient pour vous et moi. Nous attendons à ça, Seigneur. Oui, j'ai surveillé et j'ai veillé de moment à l'autre. Je le verrai. Encore une fois, merci, Seigneur. Alors que nous sommes assis avec nos têtes inclinées, continuons à fredonner. Quel privilège cela d'être capable de donner la communion au messager prophète Frère Branham.
Maintenant, je vais lire une partie de la parole maintenant trouvée dans les 1 Corinthiens 11e chapitre 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la même nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rempli pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. » Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades sont morts. Si nous jugions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères, lorsque vous réunissiez pour le repas, attendez-vous les uns avec les autres. Attendez-vous les uns les autres. Maintenant, je puis dire ceci. Jésus nous a donné ce commandement avant d'aller à sa mort. Sachant qu'il y allait, les disciples se demandaient encore de quoi il parlait quand ils l'ont écrit. Mais il a dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur. » Ces précieuses paroles, les disciples se demandaient sans doute, « Que veut-il dire en mémoire de moi? Comment pouvons-nous faire cela? » Tout cela est un mystère pour eux, mais pas pour lui. Il était Dieu. Il savait ce qu'il devait faire en mémoire. Alors il a dit, « Quand vous réunissez pour manger, maintenant, celui qui mange et boit indignement et vient ici et professe d'être chrétien, prenant le corps du Seigneur, puis sort et vit avec le monde et renie Christ et sa puissance et des choses comme ça, vous faites un grand déshonneur à Dieu. Vous déshonorez Christ, alors ne le prenez pas. Mais si vous essayez, avec tout ce qui est en vous, de vivre correctement et de montrer que vous êtes chrétien, que vous aimez Jésus-Christ, alors c'est votre devoir de le prendre. » Et maintenant, dans, je crois que c'est Jean, le chapitre 6, Jésus a dit, « Celui qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. » Maintenant, cette promesse, n'est-ce pas une chose glorieuse? Je vais le ressusciter. Avez-vous déjà pensé à ce pourquoi vous êtes ici? Pourquoi allez-vous à l'école, les enfants? Pourquoi travaillez-vous, papa? Qu'est-ce que vous faites lever, vous, les mères, d'une matinée, amener les enfants à l'école, leur laver le visage, faire les lits et cuisiner, et faire tout ça, entrer épuisé le soir et le lendemain recommencer la même chose? Pourquoi faites-vous ça? Pourquoi travaillez-vous et servez-vous, papa, et tout, entrer la nuit inquiet, et les enfants tombent malades, et vous tombez au sol, et pleurez, priez, luttez, se rétablissent, et on repart, et vous le faites à nouveau, et chaque dimanche, vous leur lavez le visage, les amenez à l'église, et bien, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'il y a ici? Est-ce que tout ce qu'il y a? Oh là là, ce serait misérable. Et sachant que vous devez partir de toute façon, de quoi s'agit-il? Frère, c'est une période d'examination. C'est un temps d'opportunité. C'est l'opportunité d'accepter ceci. Dites-moi ce qui peut remplacer ça. Dites-moi ce qu'il y a de mieux de ça. Produisez n'importe quoi dans le monde. Être le roi de la terre, régner sur l'univers, être un coup de chef, un Kennedy, ou quoi que vous souhaitez être, vous mourrez de toute façon, n'est-ce pas? Vous ne savez pas à quelle heure ça va arriver d'une minute à l'autre. Mais ici, quand la mort frappe, vous avez la vie éternelle et ne pouvez pas mourir. Avec une garantie par le Dieu de toute la création, qui est le possesseur des cieux et de la terre, je l'ai ressuscité au dernier jour. Aide mon incrédulité, ô Dieu! Remplis mon âme, ô Dieu, purifie-moi, remplis-moi, charge-moi, envoie-moi, ne me laisse pas mourir, laisse-moi vivre pour raconter l'histoire, laisse-moi aller dans tous les coins et recoins de la terre, prêcher la parole et semer la semence, oui, monsieur, afin qu'il y ait une moisson au dernier jour de la vraie parole pure avec des croyants en Christ. Vos péchés sont-ils sous le sang par la foi ce soir en Jésus-Christ? Nous allons maintenant prendre la communion. Pas la communion, vous communiez avec, comme vous mangez les uns avec les autres, juste communiez avec Dieu. La communion n'est pas le pain ni le vin. La communion est de parler dans les deux sens avec Dieu. Et c'est un symbole que nous prenons, que nous croyons en sa mort, corps brisé, son enterrement et sa résurrection. Nous croyons à la présence du Saint-Esprit. Et nous croyons qu'il nous a donné la vie éternelle et nous ne pouvons pas mourir. Nous sommes passés de la mort à la vie. Et un jour, quand nous nous séparons les uns des autres ici, nous ressusciterons dans la résurrection les uns avec les autres, unis avec Christ Jésus en tant que corps. Amen. Sur ces bases et la confession de mes péchés et ma foi dans le Fils de Dieu, je me prends moi-même et l'Église devant ces ordonnances que Dieu nous a laissées en mémoire de lui jusqu'à ce qu'il vienne. Jésus a dit, « Ceci est mon corps qui est brisé pour vous. Mangez. Faites ceci en mémoire de moi. » Notre Père céleste, après avoir confessé nos péchés, avoir entendu ta parole, après avoir confessé que nous sommes indignes et que nous ne faisons confiance qu'au mérite du Fils de Dieu, nous sommes des créatures indignes. Pardonne-nous, Seigneur, que tout ce que nous avons fait. Et maintenant, par la foi, nous venons à la table du Seigneur Et maintenant, comme ce pain est présenté pour représenter le corps de notre Seigneur, je prie, Père, que tu le sanctifies à son usage prévu, que toute personne qui participe à cela ait la vie éternelle dans son âme, et que chacun prenne la guérison dans son corps et vive le temps que tu lui as donné. Qu'ils te servent tous les jours de leur vie et qu'ils soient ressuscités au dernier jour dans la résurrection et à être rassemblés avec les tribus de la terre qui sont rachetées par le sang de Christ. Accorde-le, Seigneur, au nom de Jésus, nous le demandons. Amen. La Bible dit aussi, il prit la coupe, et quand il soupa, il dit, « Ceci est la coupe du Nouveau Testament. Aussi souvent que vous buvez cela, vous montrez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. » Père Céleste, nous tenons le fruit de la vigne ce soir, ce vin, et nous prions, Père Céleste, que tu sanctifies ce vin. Cela représente le sang qui a été versé pour nous au calvaire. Grâce à ce sang, nous avons la rémission de nos péchés par la foi dans l'œuvre achevée de Jésus-Christ. Parle-nous de toute notre incrédulité, Seigneur, et donne-nous la foi et la compréhension, et fais de nous tes serviteurs, Seigneur, afin que nous puissions te servir tous nos jours. Sois avec nous, Père, alors que nous réunissons autour de cette table, et bénis-nous dans cette belle communion avec toi, et puisses-tu parler à nos cœurs et nous indiquer le travail que nous devrions faire. Accorde-le, Seigneur, sanctifie ce vin pour son usage prévu dans le nom de Jésus-Christ. Nous le demandons. Amen.